Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Légende Podcast.
Je m'appelle Dylan, je suis animateur, directeur et je suis aussi formateur BAFA. Et je travaille depuis plus de 13 ans en accueil de loisirs.
Putain, hyper classe. Merci. Et t'es animateur, mais animateur, je sens que t'es vraiment à l'aise quand tu parles. C'est un peu vu tout à l'heure et tout, je sens que c'est un exercice plutôt facile pour toi, non, de parler, d'expliquer des choses et tout.
On est un peu obligé, forcément, quand on s'occupe d'enfants au quotidien, on a à gérer du groupe, beaucoup de monde en même temps, et du coup, forcément, c'est plus facile si on est un peu à l'aise à l'oral et qu'on a une facilité à pouvoir
exprimer les choses, quoi.
Ouais.
On a mis un peu de temps à te répondre, je crois. On a mis 5-6 mois.
Bah, à la suite d'une vidéo, j'ai vu que Guillaume parlait de ça, et du coup, je me suis permis d'envoyer un mail où j'ai un peu raconté ce que je faisais au quotidien et tout. Et puis, quelques temps après, on m'a recontacté, et du coup, on a calé une date, on a discuté, et aujourd'hui, je suis là.
Juste pour reprendre un peu ta vie, tu n'arrives pas par hasard dans le milieu de l'animation, c'est que ta maman était déjà animatrice, puis directrice du centre de loisirs.
C'est ça. Donc ouais, moi je viens d'une famille d'animation, parce que ma mère m'a eu très jeune, elle avait 22 ans, et donc du coup, elle a fallu qu'elle trouve du travail, et c'était un peu au début du lancement de la filière animation au niveau de la fonction publique, donc ils cherchaient beaucoup de monde, elle avait un peu cette facilité d'être avec les gens, donc elle a commencé là-dedans, et en fait elle a continué sa carrière dedans, donc elle a été animatrice, puis après elle est devenue directrice, donc elle s'occupait plus des animateurs plutôt que des enfants, et elle a même après passé encore une échelle au-dessus, où elle a été chef de service, entre guillemets, donc là on est quand même dans un travail beaucoup plus administratif, quoi. Donc depuis toujours, en fait, j'allais au centre de loisirs avec elle, plus petit, j'ai toujours grandi là-dedans, et puis comme elle travaille avec les horaires du centre de loisirs, bah forcément, il fallait bien qu'on puisse me garder, donc j'allais au centre de loisirs. Donc depuis toujours, j'ai toujours grandi dans ce milieu-là.
Et tu fais un peu le même parcours finalement, parce que
exactement.
Enfin, pour l'instant, il te reste après la dernière échelon et tout, mais t'es un peu dans le même chemin.
C'est un exemple un petit peu pour moi, forcément, ma maman et le parcours qu'elle a pu avoir, et donc forcément, bah je suis un peu ses pas. Alors j'ai un peu d'avance sur elle, parce que je suis devenu directeur un peu plus tôt qu'elle.
Il y a pas un concours du coup.
Il y a pas de concours, mais voilà. Et puis moi, je fais de la formation, ce qu'elle n'a jamais fait, mais voilà, on suit un peu le même parcours à des époques un peu différentes.
Est-ce que parfois, quand vous êtes en soirée ensemble, repas de famille et tout, il y a partage d'anecdotes,
oui,
un peu surenchère de « il m'arrivait ça, et moi j'avais vécu ça plutôt ».
En fait, ce qui est très très drôle, c'est que comme on a tous les deux travaillé sur le même lieu, c'est-à-dire que moi, je m'occupe d'enfants dont les parents étaient les enfants dont-elles à s'occuper avant.
Ah waouh, ok. Donc, que t'es en sud de Paris, c'est ça?
Voilà, c'est ça, moi je suis dans le sud de Paris, et en fait, ça arrive que des fois je lui parle d'un enfant, elle me demande le nom de famille, je lui dis, elle me dit, mais attends, mais je connais, le papa, il ne se ressemblerait pas si à ça, si. Et en fait, elle l'a eu enfant,
incroyable.
Le papa, et du coup, depuis, il a grandi, il a eu à lui à son tour des enfants, et du coup, c'est moi qui m'en occupe d'eux aujourd'hui, quoi.
C'est quoi le meilleur conseil qu'elle t'ait donné par rapport à ce métier-là avant que tu y ailles? Est-ce qu'elle t'a dit, si tu y vas, c'est pour une raison particulière? Est-ce qu'elle t'a dit.
Moi, j'ai eu la chance, je dis très souvent que j'ai eu la chance d'avoir une éducation quand même hyper classe et hyper bonne de la part de ma maman.
Ouais.
Et en fait, elle ne voulait pas du tout que je fasse ce métier-là. Et à la base, je ne voulais pas faire ça forcément non plus. Je me prédestinais à faire autre chose. Et puis, comme ça m'a vraiment plu, je me suis dirigé là-dedans. Le vrai conseil qu'elle m'a donné quand j'ai commencé à faire ce métier, c'est qu'elle m'a dit, si tu veux le faire, je ne t'empêcherai pas de le faire, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas m'en empêcher. Elle m'a dit, si tu le fais, tu le fais à fond. Tu le fais vraiment. Et tu ne fais pas les choses à moitié juste pour gagner un peu d'argent. Si tu le fais, tu le fais, tu te formes, t'apprends, tu t'intéresses, tu crées des choses, tu évolues, tu ne restes pas animateur toute ta vie, tu passes des caps, etc. Donc ça, c'est le meilleur conseil qu'elle m'a donné, c'est de faire ça et de ne pas rester juste animateur.
D'accord, ok. Elle voulait que tu évolues directement.
Exactement.
Tu passes un BAFA quand tu commences, c'est ça? Le premier diplôme, c'est le BAFA?
Le premier diplôme, entre guillemets, c'est pas vraiment un diplôme, en fait, c'est un brevet.
Brevet d'aptitude.
Le brevet d'aptitude aux fonctions de l'animateur.
Ah, okay.
Et après, il y a le BAFD, donc le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. Et en fait, c'est pas vraiment un diplôme, c'est vraiment un brevet. Le BAFA, c'est très rapide, hein. C'est 7-8 jours de théorie, 14 jours de stage pratique,
okay.
6 jours de théorie. Donc, c'est pas forcément assez pour se dire qu'on est animateur. Animateur, je pense qu'on l'est vraiment quand on est sur le terrain avec les enfants
avec l'expérience aussi.
Et voilà. Mais le vrai premier diplôme, entre guillemets, ou brevet qui nous fait arriver dans ce métier-là, c'est le BAFA.
Ouais. D'accord. C'est quoi la tranche d'âge la plus complexe à gérer?
Il n'y a pas forcément de tranche d'âge la plus complexe à gérer. C'est vraiment en fonction de ta personnalité, de ce que t'es toi.
Ou l'âge que t'as quand tu le fais aussi.
Exactement, l'âge que t'as. Moi, par exemple, l'erreur que j'ai faite, c'est de commencer très tôt à travailler avec des pré-ados, donc entre 11 et 17 ans, mmh. et que du coup, en termes de, par rapport à mon âge et de, d'autorité vis-à-vis d'eux, c'était assez difficile. Quand tu as 17 ans et que tu dis à un adolescent de 14 ans, bah maintenant, il va falloir que tu m'écoutes, alors que possiblement, on se croise au lycée, c'est difficile.
Ah, c'est fou.
Mais il n'y a pas forcément une idée d'âge ou de tranche d'âge plus difficile qu'une autre, ça ont vraiment toutes leurs particularités, et c'est vraiment toi, ce que t'es et comment tu te comportes, quoi.
Il y a plein de types de gamins différents. Mmh. On va en parler des différents types, des différentes anecdotes qui t'ont fait vivre. Mais est-ce qu'il y a des gamins, tu les vois arriver, tu te dis, ça va être le gamin chiant, c'est le gamin, c'est un démon. Ou est-ce que finalement, c'est peut-être un démon quand tu le vois, mais il y a une raison à ça?
On met souvent les enfants dans des cases, ouais. entre guillemets, et où on leur dit par exemple, bah, voilà, lui c'est le gamin chiant, lui c'est le gamin qui est toujours sage, lui c'est le gamin qui fait que des bêtises, etc. Et moi, j'ai du mal avec ce principe-là parce que je pars du principe qu'en tout cas, très jeune, c'est jamais forcément de la faute des enfants s'ils ont ce comportement. C'est plutôt de la faute de l'environnement, de l'éducation qu'ils peuvent avoir, de la maison, de toutes ces choses-là. Donc j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on dise, bah, lui, c'est l'enfant chiant, machin. Il n'y a pas forcément d'enfants comme ça ou qu'on met dans les cases. Moi, j'ai du mal avec ça. Vous avez reçu il n'y a pas longtemps Alexandre Astier. Ouais. Moi, je suis très fan de Kaamelott. Et dans une des épisodes. Ouais, bah voilà, c'est un génie. Et dans un épisode de Kaamelott, il dit une phrase qui est hyper intéressante. Il dit que, en fait, la plus grande peur des enfants, c'est le fait d'être abandonné, d'être oublié. Et il dit surtout, c'est qu'en fait, les enfants, ils se conforment à l'idée qu'on a d'eux-mêmes.
Ouais.
Et c'est vraiment ça que je vis au quotidien. C'est qu'en fait, en tant qu'adulte référent d'un enfant, si je passe ma journée à lui dire que c'est un enfant chiant, forcément, il va être chiant.
Il va finir par y croire.
Exact. Finalement. Il va finir par y croire. Et du coup, le devenir et de se dire, bon, bah, au moins, je suis l'enfant chiant, quoi. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné. Voilà. Donc, en fait. Les enfants, on les conditionne dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup d'études qui disent que tout se joue dans la vie d'un enfant avant ses 6 ans. Et en fait, il y a un certain conditionnement qui se fait à ce moment-là. Mmh. Et que tout ce qui nous arrive par la suite, bah, c'est entre...
C'est ta gamin, on dit que c'est une éponge, mais c'est réel, en fait.
C'est vrai. Ah, okay. Mais carrément. Tout ce que tu vas dire, il va le retenir. Tout ce que tu vas faire, il va le voir, il va le comprendre, il va le mimétiser. Enfin, voilà.
Il y a... T'as eu un gamin, pareil, qui était un peu insupportable, un peu agressif, violent avec les autres. Et en fait, vous êtes rendu compte avec ton équipe qu'il y avait une raison. Tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
Ouais.
Et tu peux raconter cette histoire-là,
ouais,
parce que je trouvais ça intéressant, en fait.
Ouais. Donc, c'était en maternelle. Et donc, c'est un enfant qui arrive en petite section de maternelle et qui a 3 ans. Et il avait des caractéristiques pour l'âge de 3 ans qui n'étaient pas celles de la tranche d'âge d'un enfant de maternelle. C'est-à-dire qu'il était assez violent dans la relation qu'il pouvait avoir avec les autres. Mmh. Il avait du mal dans plein de choses en termes d'apprentissage de la parole, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte, avec le temps, avec les équipes, donc l'équipe d'animation, l'équipe aussi un peu enseignante, enfin voilà... qu'il a des comportements qui sont vraiment étranges et qui ne sont pas de cette tranche d'âge-là.
Ouais.
Et un truc qui nous a fait vraiment tilt, c'est qu'en fait, quand on lui parlait, si on ne lui parlait pas en le regardant vraiment droit dans les yeux, comme je te regarde là, et ben en fait, il ne l'entendait pas. Enfin, il ne nous répondait pas ou alors...
Il n'était pas dedans, quoi.
Voilà, ouais. Il n'était pas dedans. Et des fois même, quand on lui parlait, tu vois, si je te parle et que je te parle comme ça, tu vas quand même m'entendre, tu vois. Mais lui, cet enfant, quand on faisait ça, au début, on pensait qu'il faisait exprès de genre, en gros, tourner la tête pour faire genre... Je m'en fous. Exactement. Sauf qu'en fait, réellement, il n'entendait pas. Et on discute un peu avec la famille de tout ça, etc. On leur dit, voilà, on pense que peut-être, il y a peut-être un problème au niveau des oreilles de surdité, ce qui fait que vu qu'il n'entend pas, eh ben, il ne peut pas apprendre à parler. Comme il n'arrive pas à apprendre à parler, il n'arrive pas à rentrer en communication avec les autres.
Il est frustré, une frustration qui se crée.
Et donc, du coup, comme il n'arrive pas à rentrer en communication avec les autres par la parole, il rentre par les gestes. Et donc, quand il n'est pas content, il tape. Quand il est heureux, eh ben, il va te serrer très fort dans ses bras et donc potentiellement te faire mal. Quand il est triste, il va pleurer, etc.
Ah ouais, okay.
C'est le principe d'un bébé. Le bébé, il ne peut pas parler. Et du coup, comment il exprime ce qu'il ressent? Et bien, il pleure, il rigole, etc. On parle avec la famille. Forcément, pour une famille, c'est assez difficile d'en pouvoir entendre que son enfant est potentiellement différent.
Ouais.
Donc là, ce n'est pas quelque chose de très grave, mais pour des choses un peu plus graves, ça peut être difficile. Bon. Ils font ce qu'ils font, ce qu'il faut plutôt. Ils vont voir le médecin et en fait, le médecin retire des bouchons de cire des oreilles de...
C'est devenu sourd, le gamin.
Et en fait, l'enfant était quasi sourd à cause de ça. Ils lui ont posé des yo-yos. Donc c'est un petit appareil qu'on met dans l'oreille comme ça et qui permet d'entendre mieux. Et du jour au lendemain, vraiment, le comportement de l'enfant, il a changé parce que du coup, il a réussi à apprendre à parler, à rentrer en communication avec les autres, etc. Et en fait, il est passé d'un enfant, entre guillemets, qu'on mettait dans une case de « c'est l'enfant chiant, il est terrible, on ne pourra jamais rien en faire », à en fait, c'est un enfant comme les autres.
D'accord. Ce gamin-là, tu l'as eu dans quel contexte? C'était périscolaire, c'était centre?
Alors moi, le travail d'un animateur que moi je fais au quotidien, c'est les deux en fait. C'est à la fois du périscolaire et de l'extrascolaire.
Donc, c'est-à-dire que périscolaire, ça va être extrascolaire. C'est par exemple les gens de la cantine.
Et voilà. Non, la différence entre les deux, c'est que le périscolaire, c'est tout ce qui va encadrer l'école. C'est-à-dire quand il y a pas école, on est là. L'accueil du matin, le temps de restauration du midi, et l'accueil du soir. Et tout ce qui va être extrascolaire, ça va être la journée du mercredi complète et les vacances.
Et donc, y compris les séjours.
Exactement. D'accord. Et donc, nous, le travail d'un animateur à temps complet, c'est de faire les deux. C'est à la fois d'être là le matin pour l'accueil du matin avant l'école, et en même temps d'être là le mercredi et de possiblement de faire des séjours, etc.
Est-ce que tu as des chouchous? Tu sais, des gamins, tu te dis, ouais, c'est bon, lui, je mise sur lui, c'est un mec, un gamin gentil, serviable, affectueux. Est-ce que tu vois, tu as ce genre de truc où tu dois te séparer de ça?
Officiellement, on n'a pas de chouchous. On peut pas, enfin, tu t'imagines bien que c'est difficile. Maintenant, on est des êtres humains comme les autres, on n'est pas des robots, et forcément, on a des liens qui se créent, on a plus d'affection avec des enfants qu'avec d'autres. Moi encore, à l'heure actuelle, il y a des enfants de la première génération d'enfants que j'ai eu qui avaient donc du coup 3 ans en maternelle, qui ont maintenant 14, 15, 16 ans, que je revois, et quand je les revois, je suis hyper content de les voir, on garde contact. Alors, garder contact, ça veut pas dire que je les ai au téléphone tous les jours et tout, mais quand je les croise là où j'habite, parce que j'ai longtemps travaillé où j'habitais, forcément, ils changent de trottoir, on discute 5 minutes, etc. Donc, est-ce que j'ai des chouchous? Oui, on en a tous, parce que forcément, quand tu travailles avec le monde, avec des enfants, t'en as forcément que t'apprécies plus que d'autres. Est-ce que maintenant, mon comportement avec eux est différent entre guillemets, ceux que j'apprécie le plus et ceux que, pas que j'aime pas, mais que j'apprécie pas forcément? Non, mon comportement, c'est il est le même. Et d'ailleurs, c'est souvent bizarre, mais on est souvent beaucoup plus dur avec ceux qu'on apprécie le plus qu'avec ceux qu'on n'apprécie pas forcément.
Ouais, tu t'es
plus exigeant, quoi.
Ouais, voilà, plus exigeant. Il y a des gamins, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué, t'as des gamins, dans la manière de fonctionner, de parler, t'en as qui vont être très développés très rapidement, donc il y aura une tchatche de fou, et d'autres qui vont être beaucoup plus taiseux. Est-ce qu'il y a des gamins qui ont des discussions un peu d'adultes, tu vois, des discussions un peu. Tu les écoutes, j'imagine, si t'arrives d'écouter leur conversation. De quoi ça parle quand c'est.
Ça parle de tout. En fait, ça parle de tout ce qui se passe à la maison.
Okay.
Et en fait, un des trucs que moi j'aime bien faire, c'est des fois juste de me poser avec les enfants, de pas forcément proposer d'activité, juste on va jouer et on discute en fait de ce qui se passe. Et donc ils racontent un peu leur vie, ils racontent des choses. Et donc forcément, il y a des enfants en fait, quand ils sont élevés par des adultes dans un monde d'adultes, forcément ils grandissent beaucoup plus vite. Et donc du coup, il y a des enfants qui ont vraiment des discours quand tu les entends parler. Enfin, moi j'avais un gamin avec qui je discutais souvent, il voulait devenir président et il t'expliquait comment il allait le faire. Il t'expliquait le cheminement de comment il allait faire ça. Et il s'est présenté aux élections municipales des enfants de la ville et il se comportait comme un. Voilà,
il avait. Quel âge il avait ?
Prestant, je sais pas, 8-9 ans.
Incroyable.
Comme ça. J'ai un gamin maternel, 4-5 ans, il était capable de me réciter toutes les recettes de cuisine que faisait sa mère. Parce qu'en fait, quand sa mère a cuisiné avec lui, elle était à côté, elle lui disait, bah là, tu vois, mon chéri, on va prendre les carottes, on va les couper comme ça, on va faire une julienne de légumes. Et il t'explique c'est quoi une julienne de légumes à 5 ans.
Okay, voilà. Ouais, ok,
j'ai des enfants aussi qui ont. J'ai un enfant qui a appris à jouer aux échecs. Alors, ça m'est pas arrivé à moi, c'est un collègue à moi, qui est aussi un de mes meilleurs amis, qui est très bon aux échecs. Et en fait, il apprend à jouer aux échecs aux enfants, et l'enfant lui dit, je vais te battre. Et mon collègue est très fort aux échecs, pour le coup. Et mon collègue lui dit, mais non, mais enfin, tu vois, je suis plus âgé que toi, ça fait très longtemps que je joue, tu pourras pas me battre tout de suite.
Forcément.
On va apprendre, mais tu vas y arriver. Et bien, l'enfant, il avait préparé un plan, c'est-à-dire qu'il prenait une feuille et un stylo, il jouait en boucle contre l'adulte, et il notait tous les coups qui se passaient en disant, ok, quand j'ai avancé tel pion ici, il a fait ça, et donc du coup, la prochaine partie, s'il fait ça, je ferai ça. Il a fait ça en boucle pendant des heures et des heures à jouer au centre de loisirs, il venait, il jouait qu'à ça, et il a réussi à le battre.
Et ça me fait penser, ça me fait vraiment
penser. Avec le temps, il a réussi.
Au film de Jours Heureux. Je t'avais parlé un peu quand
on
l'appelait au téléphone.
Bah forcément, quand on parle d'animation.
Pour moi, c'est le film de Toledano et Nakache qui est la référence, vraiment, c'est un de mes films préférés en France. Et ce film-là, t'as un gamin, un belge, qui veut devenir président, tu vois, qui a ce meilleur parler. On met l'affiche comme ça si les gens veulent aller le voir. C'est un super film sur les colonies de vacances et sur les enfants en général. Et c'est un des premiers films où il y a Omar Sy qui a commencé à avoir un premier rôle, entre autres. Donc c'est à voir, quoi. D'ailleurs, tu m'as dit que ce film-là, tu l'utilisais.
Ouais.
Pour
les stages BAFA,
pour les stages BAFA, quoi.
Ah ouais, en fait, alors, quand c'est possible de le faire, je sais même pas si j'ai le droit légalement de le faire, mais bon, c'est très grave. Mais on s'arrangera.
Ouais.
Mais voilà, mais en soi, je le mets, en fait, et c'est juste pour pouvoir discuter. Parce que, en fait, le film, quand tu regardes le film, tu te dis que forcément, ils ont discuté avec des gens qui travaillent du milieu de l'animation. Il y a des choses qui se passent dans le film que t'inventes pas. C'est des trucs qui ont été vus, des choses qui se sont passées. Et donc, je passe ce film, et en fait, on en fait un débat avec les stagiaires où on se dit, voilà, ça vous arrive, qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Putain.
Et on discute de ça. Donc ouais, je l'utilise ce film, il est hyper intéressant.
Et les gamins, du coup, ils font toujours des choses un peu bizarres, tu vois. Il y a parfois des réactions tellement spontanées que ça déclenche des fou rires un peu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait de plus original, les gamins, où tu te dis, non mais là, comment ils ont pu imaginer ce truc-là, ou comment ils y ont pensé, tu vois?
Alors un truc, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'étais là quand c'est arrivé. En fait, on arrive en séjour, donc on est sur un séjour de vacances, on arrive et en général, le premier jour, c'est toujours la même chose, c'est qu'on s'installe dans les chambres, on présente les locaux, les enfants s'installent et tout. Et le premier soir, c'est le moment de la toilette, donc les enfants vont se doucher, etc. Et là, donc, on a un collègue qui envoie ses enfants à la douche, et puis le premier enfant, il y va, et puis il met un peu de temps. Et puis forcément, la collectivité, t'as une douche pour 7-8 enfants.
Ça prend son temps.
Faut être un peu speed, quoi. on fait attention à ce qu'ils soient bien douchés et tout, mais voilà, pas une heure sous la douche. Et là, le gamin, il met un peu de temps, quoi. Et mon collègue, il commence à taper à la porte. Bah, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux que je rentre pour t'aider? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Non, non, t'inquiète. Il lui dit, je comprends pas, le savon, il part pas. Enfin, j'arrive pas à faire partir le savon, je comprends pas et tout. Donc là, mon collègue, il dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Je dis, bah, il rentre. Enfin, voilà, va voir. Donc bon, écoute, je vais rentrer, machin. Donc moi, je suis à côté, etc. Il rentre et en fait, le gamin, il s'était trompé. Dans la trousse de toilette, il avait pas pris du shampoing, il avait pris de la crème solaire waterproof, mais genre vert fluo. Et il s'en était mis, mais partout. Donc imagine, t'arrives le premier jour, tu vois ça, dans la douche, et là, mon collègue, il me regarde, et il me dit, je lui dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi.
Jour 1, quoi.
Ouais, dans les cheveux et tout, on a passé, je sais pas, 40 minutes à le frotter au gant pour lui faire partir la crème solaire waterproof, quoi.
Incroyable.
Horrible.
Incroyable. Du coup, les gamins, ils ont des... on va dire des nouveaux développements et d'autonomie différents, j'imagine, selon comment ils sont éduqués à la maison, selon ce qu'ils ont comme responsabilité. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout autonomes? Tu vois, que tu dois, à 6, 7, 8 ans, aider encore alors que tu ne devrais plus?
Ah oui, oui, ça arrive, ça. Ça, souvent, ça ne se voit pas forcément en accueil de loisirs,
ouais.
Mais ça se voit beaucoup en séjour. L'esprit séjour, il est vraiment différent parce que d'un coup, on vit 24 heures sur 24 avec les gens. Et du coup, on rencontre les enfants comme ils sont au quotidien, ouais. Avec leur fatigue, avec leur énervement, avec tout ce qui va. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des gamins où tu leur expliques. Moi, j'ai beaucoup fait des séjours de ski. Mmh. Donc, moi, ma technique, pour pas que ce soit le bazar, c'était on prépare les vêtements la veille pour le lendemain.
Bonne technique.
Petite table sur la chambre, chaque enfant prépare son petit paquet de vêtements et le lendemain, on est prêt, quoi. Ouais. Les petits chats, on prépare son paquet de vêtements, etc. Et il y a toujours un gamin qui est perdu. Et tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que je prends comme vêtements? Bah, un slip. Ah, le slip, on le change tous les jours. Ouais, c'est mieux, ouais. Ok. Donc, il prend un slip. Et des chaussettes. Ah, ouais, des chaussettes. Et là, tu dis, mais qui c'est qui t'habille à la maison? Bah, c'est maman. Ouais, mais t'as 10 ans, gars. Enfin, tu vois.
Ouais, tu vois, t'as 16 ans. T'as 16 ans, t'es au lycée.
Tu vois, c'est ça, voilà. Mais t'es chef d'entreprise, enfin, tu vois. Il y a un peu de ça. Et donc, alors, tu te dis en maternelle, ça fonctionne. Tu te dis, le gamin, il a 3-4 ans, il sait pas ce qu'on fait.
Je crois que ça fait un peu pareil avec les darons de la génération d'avant.
Ouais, mais c'est marrant, c'est que c'est souvent un peu les kékés de la cour qui se la racontent un peu, qui sont finalement des gros bébés cadoms à la maison parce qu'ils sont bien couvés par maman et du coup, ils savent pas qu'on change de slip tous les jours, ils savent pas qu'on met le t-shirt en dessous du pull. Enfin, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu un truc comme ça qui m'est arrivé. On part en séjour et je dis, bah, mettez votre tenue de ski, et un gamin de 10 ans, il s'est habillé par-dessus son pyjama, il a mis sa tenue de ski par-dessus ses habits. C'est-à-dire qu'en fait, le paquet de vêtements, c'était genre un jean, il a mis son jean par-dessus le pyjama, et par-dessus le jean et le pyjama, il a mis sa combi de ski. Et tu le vois sortir comme ça, et tu dis, mais qu'est-ce que t'as... Et tu ouvres et tu fais, oh, mais c'est pas vrai.
Incroyable.
Bah, tu nous as pas dit qu'il fallait qu'on enlève le pyjama.
Ouais, il y en a qu'il faut prendre les basiques, ouais. Finalement.
Légende Podcast.
Et là, tu parlais des parents, de comment ça se passe à la maison. Il y a quel type de catégorie dans les parents? Parce que souvent, t'as le parent chiant, t'as le parent, t'as le parent un petit peu, il s'en bat les couilles, t'as le parent qui va être très présent pour le gamin avec mille questions. C'est quel type de... Comment tu les reconnais direct, les parents, ils sont...
Pas forcément, mais tu les as bien décrits, hein, c'est ça. Hein. Tu vas avoir le parent qui est hyper derrière son gamin et qui va participer à tout ce qui se passe dans la vie du centre. Dès qu'on va faire une soirée, dès qu'on va faire un truc, il va être là, il va participer. T'as le gamin pour qui on est clairement juste un moyen de garde. Et
ah ouais,
on parle pas.
Ça.
Ouais, moi j'ai des parents où ils arrivent le matin, ils déposent leur enfant comme un paquet de viande, et ils le récupèrent le soir et c'est bonjour, au revoir et basta. Excusez-moi monsieur, non, j'ai pas le temps, y a pas. Tu vois, il y a ça.
Okay.
T'as les parents qui vont être derrière leur enfant au maximum, qui vont être tréchants, où il va perdre un bonnet et c'est la fin du monde, ils sont capables d'envoyer un mail à la terre entière parce qu'on a perdu le bonnet. T'as vraiment tous les spectres possibles de parents. T'as des excellents parents comme des très mauvais.
Et ceux qui justement laissent leur gamin comme ça, qui vraiment, c'est bon, le gamin, il est posé. Est-ce que c'est des parents qui, à la maison, sont aimants ou autres? Ou est-ce que ça correspond quand même à un type de catégorie de gens qui ne va pas être cool avec les enfants?
Malheureusement, je ne suis pas à la maison, donc je ne peux pas forcément voir ce qui s'y passe. Mais c'est difficile de faire des généralités pour ce genre de choses-là. Mais c'est vrai qu'en général, on aurait plus tendance à penser que le parent qui participe à la vie du centre, qui est hyper sympathique avec tout le monde, machin, forcément, il est un peu plus aimant. Il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai commencé, c'est que j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un dans ce milieu et de participer vraiment à la vie des gens quand les parents, ils m'appelaient par mon prénom.
Ok.
Parce qu'en fait, au début...
Ah, humanisé, quoi.
Ouais. Okay. En fait, au début, quand ils viennent récupérer leurs enfants, ils récupèrent l'enfant, ils récupèrent le sac et tout. Bon, bah, tu dis au revoir à l'animateur, tu vois.
Okay. Et l'animateur.
Je suis l'animateur. Ouais, et l'enfant, au revoir Dylan, mais les parents, ils connaissent pas mon prénom. Et plus j'ai passé de temps avec eux, j'ai partagé des moments, et d'un coup, les parents, ils ont commencé à m'appeler par mon prénom.
Ouais,
et là, je me suis dit, oh, il y a un truc qui s'est passé, je fais partie de la vie des gens, là.
Incroyable.
Ouais.
T'as des parents qui sont. Qui t'ont fait des dingueries. Je sais pas, tu sais, de venir sur un camp. Je pense à Nos Jours Heureux, le film. Il y en a qui observent, qui veulent à tout prix être sur le camp, voir ce qui se passe, si le gamin il va bien, s'il se nourrit bien et tout. Est-ce que t'as ce genre de parents comme ça? Ça existe?
Alors, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai une histoire comme ça.
Ok.
Mon oncle, il travaillait aussi pour la ville pour laquelle je bossais. En fait, son travail, c'était de faire le portage des repas entre la cuisine et les écoles de la ville. Mmh. Et un jour, il va pour se garer avec le camion pour aller à la cantine. Et juste à côté de la cantine, il y a une école qui est attenante, quoi.
Okay.
Et il voit un gars dans sa voiture, comme ça, avec des jumelles, dans la voiture, en train de regarder la cour de récréation.
Oh, wow.
Donc là, tu te dis...
En plus, là, tu penses à plein de trucs.
Bah, ouais, bizarre l'ambiance, quoi. Mon oncle, il sort du camion, il toque au carreau et tout, il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur ?»« Non, non, vous inquiétez pas. » Et en fait, dans la voiture, le gars, il avait ses jumelles comme ça, il avait un petit calepin avec un stylo et un chronomètre. Tu dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et donc, mon oncle, il commence à dire « Mais c'est quoi le délire et tout ? Enfin, qu'est-ce que vous faites ?» Et le monsieur, il commence à le rassurer. « Non, en fait, je vous explique, je vous rassure. En fait, je vous raconte. Mon fils, il est à l'école et en fait, il rentre le soir en me disant qu'il n'a pas le vélo dans la cour. » Et quand j'ai été voir la maîtresse, elle m'affirme qu'elle donne le vélo autant de temps à tous les enfants. Du coup, je suis venu pour chronométrer, pour bien vérifier que les enfants... Et là, vous voyez, mon oncle, il fait « Mais vous êtes fou !» Enfin, mais en vrai, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton histoire ? Tu restes pas devant une école dans une voiture avec des jumelles, limite en plan, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est arrivé à mon... Et je me dis « Mais c'est fou de faire ça !» C'est-à-dire que le père, il a été prêt à se mettre dans la voiture pour chronométrer le temps que passait son fils sur le vélo,
ouais.
Parce que le fils, ce soir, il devait lui dire « Bah, moi, j'ai le vélo un peu moins que Bernard, par exemple. » Le mec, il a été prêt à faire ça, et je me dis « Mais c'est dingue de faire ça. »
C'est dingo. Waouh.
Il dit que c'est fou.
C'est quoi le truc le plus fou que t'es vu, toi ? C'est une histoire que ton oncle a vécu, mais une où, tu vois, tu surprends un parent en train de faire un truc bizarre, t'as eu ça
Ouais, ouais. Un soir, on est en maternelle, donc c'est un temps d'accueil, le centre, il ferme à 19h, et on a une famille qui arrive en retard, elle m'appelle, elle me prévient, je vais être un peu en retard et tout. Donc on est deux pour fermer avec mon collègue. La maman arrive, elle récupère les enfants. Et du coup, moi je lui dis à mon collègue, bon, je vais prendre mes affaires dans la salle d'animateur, on y va. On commence à éteindre les lumières. Et en fait, au moment où je repasse, je vois que dans la garderie, il y avait un petit renfoncement avec une petite salle et elle est encore allumée. Je me dis, bon. Donc je rentre pour aller voir. Donc je rentre dans la salle et là j'assiste à une scène. J'ai encore du mal à croire que j'assiste à cette scène. C'est qu'en fait, je rentre dans la pièce. Il y avait la maman qui était assise sur le canapé comme ça. Le pull remonté. Le soutien-gorge baissé, les seins à l'air, avec ses deux enfants face à elle, et elle disait à son gamin, donc un qui devait être en CP, donc 6 ans, ouais. Et l'autre qui devait avoir 4 ans. Et en fait, au moment où je rentre, elle dit à son enfant, mais pourquoi tu veux pas voir les seins de maman ? Mais pourquoi tu veux pas les toucher ? Et là, je rentre et je vois ça. Et genre, donc là, j'appelle mon collègue, à l'aide, s'il te plaît, viens m'aider. Et donc la maman, donc hyper gênée, qui est un peu honteuse, se rhabille et tout, machin.
Ah quand même, elle.
Ah ouais, ouais.
Quand même,
ouais.
Minimum, déjà.
Elle est quand minimum syndicale. Donc elle est un peu honteuse comme ça et tout. Et puis elle me regarde, et puis elle me dit, non, non, mais je vais vous expliquer. Et je lui dis, mais de toute façon, qu'importe l'explication, elle sera mauvaise. Vu la situation.
Zéro explication, là.
N'importe quelle explication sera pas la bonne. Non, mais si, en fait, je vous explique, c'est parce qu'en fait, comme je prends ma douche avec eux, le grand, il aime bien, ça le dérange pas de me voir toute nuit, il prend sa douche avec moi, mais le petit, il a peur et tout. Et moi, j'étais là, mais il est 19h10, je suis en train de vivre ça, normalement, je devrais déjà être chez moi. Qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi le faire ici ?
Elle est en train d'expliquer à son petit gamin.
C'est ça.
Qu'il fallait pas avoir peur des seins.
Exactement.
Le grand, il a pas peur.
Voilà. En gros, ton frère, il a pas peur de mes seins. Pourquoi toi, t'as peur de mes seins dans la douche, quoi ? Et moi, je suis là, mais je suis vraiment en train de vivre ça, quoi. Et du coup, j'ai appelé mon collègue parce que je me suis dit, un truc comme ça, ça se trouve, elle pourrait après aller dire
genre,
il m'a touché, ça, machin, ouais. Tu vois. Donc, bien, à l'aide, vite, vite, vite. Et genre, mon collègue qui rentre, qui fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, voilà.
Ça, c'est un truc qui doit rester en anecdote que tu dois raconter quand même.
Alors, ouais, ça se raconte, ça.
Avec des potes, je pense que
c'est marrant, ça.
Enfin, non, c'est marrant,
c'est
inquiétant.
Très gênant.
C'est quand même inquiétant.
Ah, c'est gênant.
Tu l'as revu cette maman
mais ce qu'il faut se dire, c'est que moi, je les vois tous les jours. Parce qu'en fait, il y a école tous les jours. Donc après, son enfant, il n'est pas resté très longtemps. Mais, mais si tu veux, tous les jours où on s'est recroisés, il y avait un moment de gêne où on se voyait, c'était genre bonjour, bonjour.
Vous saviez
ce qui s'est passé.
Tu avais déjà une méfiance sur ces familles ou pour toi c'était un peu un truc un peu sorti de route quoi ?
Non, non, parce que nous l'avantage c'est qu'on connaît bien les familles, donc forcément cette famille-là on la connaît, on sait comment ils sont, on les voit très souvent, donc je me suis douté que sur le moment c'était juste un moment malaisant, et pour elle et pour moi, et pour peut-être même les gamins et machin, mais il n'y avait rien derrière de bizarre, enfin c'est une évidence que si on voit ce genre de choses et qu'on a une idée de dire peut-être que c'est malsain, que c'est bizarre, bien sûr qu'on agit, il y a plein de procédures, là il n'y avait pas lieu que ça soit fait.
Moindre soupçon, vous auriez peut-être
bien
alerté,
sûr, c'est une évidence.
Voilà, l'autorité ou autre. Il y a des gamins qui vivent des choses un peu dramatiques à la maison, tu vois, qui sont violentés, qui sont, tu vois, malmenés, tu vois, pas trop aimés parfois aussi. Est-ce que ça se voit sur des gamins ? Est-ce que tu arrives à noter, je sais pas, s'ils dessinent des trucs un peu sombres ? Parfois on dit que selon le dessin des gamins, tu peux voir s'ils sont sombres ou pas. Est-ce que tu vois ce genre de choses ?
Alors, c'est pas forcément vis-à-vis des dessins, parce que ça, il faudrait être psychologue pour se rendre compte que le dessin, il est comme ci, comme ça. Moi, j'ai pas la prétention ni d'être médecin ni d'être psychologue. Moi, je reste à ma place, je suis animateur, je suis là pour donner du fun.
Tu les vois tous les jours.
Mais forcément, quand on voit tous les jours et que ça fait longtemps qu'on travaille dans ce métier, il y a quand même des signes avant-coureurs où on se dit, ah, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Comme je disais tout à l'heure, les enfants, ils fonctionnent beaucoup par mimétisme. Ouais. Et donc, si tu veux, si à la maison, papa tape maman ou inversement, ou que papa est violent, et bah forcément, l'enfant, dans sa relation qu'il va créer avec les autres enfants, ça peut avoir des répercussions. Il y a un autre truc aussi qui arrive souvent, c'est que c'est assez vu chez les enfants qui sont vraiment battus, parce qu'il faut vraiment faire une différence entre les enfants battus qui sont vraiment victimes de maltraitance et les gamins qui a pris une claque sur les fesses une fois parce que voilà.
Longtemps quoi.
Enfin voilà, il faut vraiment faire une différence entre les deux.
Oui. C'est un vrai débat, la fessée.
Voilà, il y a un grand débat là-dessus. Mon avis, on s'en fout par rapport à ça, mais si tu veux, à un moment donné, il faut vraiment faire une différence entre les enfants qui sont battus jusqu'à ce qu'il y en a qui meurent. Et le gamin qui a juste pris une tarte parce que le papa il n'en pouvait plus et que là vraiment il avait dépassé les bornes. Et donc pour ceux qui se font battre réellement, bah, y a des mouvements d'autodéfense que font les enfants. Donc souvent on va se protéger, on va se mettre comme ça quand il y a un geste brusque. Moi j'avais le souvenir d'un enfant où des fois, rien du tout, mais tu prends un truc par terre, tu te relèves un peu brusquement à côté de lui, il va faire comme ça et après il se rend compte que c'est toi et du coup ça le rassure. Et donc là tu te dis, ah ouais, bon là il y a un truc.
Ok.
Là ça peut être un signe avant-coureur de quelque chose. Après, il y en a qui vont peut-être en parler. C'est difficile quand on est enfant parce que très souvent, vu qu'on a toujours grandi là-dedans et vécu là-dedans, pour nous, c'est normal en fait.
Ouais.
Tu vois, si toute ta vie, par exemple, on t'avait mis que des pulls noirs, le jour où tu vois un pull rose, pour toi, c'est un truc de fou.
C'est
le même principe. C'est qu'en fait, si toute sa vie, on l'a tapé, pour lui, c'est normal. Je fais une bêtise, on me tape, c'est normal. Et comme on ne vit pas dans les maisons des autres, ils ne savent pas comment ça se passe ailleurs.
Ah, c'est ça.
Et donc pour lui, c'est normal. J'ai pas été sage, j'en tape.
T'as déjà vu de la violence, toi, d'un parent sur un enfant en direct?
Ouais. Un même principe. Un soir, on était en accueil de loisirs avec mon collègue et un papa qui arrive, il récupère ses enfants. Et c'était dans les derniers. Et ils partent pour aller récupérer les affaires avec ses enfants. Nous, on part dans notre salle et d'un coup, j'entends aïe et un bruit de claque.
Okay.
Et un autre enfant qui crie. Et donc, je passe la tête comme ça dans le couloir. Et en fait, je vois que le papa, il est en train de tirer les cheveux d'un des enfants, comme ça. Et l'autre enfant, il est en train de se frotter la joue, genre, je viens de prendre une claque, quoi.
OK.
Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur, etc. Ils sont pas sages, ils écoutent pas, machin. Je dis, d'accord, enfin, qu'importe. En attendant, c'est pas le droit de les taper, quoi. C'est impossible, quoi. Ouais, c'est mes enfants. C'est mes enfants, tu t'occupes, quoi. Tu vas faire quoi, petit animateur que tu es, quoi.
Ouais.
Donc, moi, je lui dis très clairement, je lui dis, c'est interdit. Enfin, vous n'avez pas le droit de pouvoir le taper. En plus, encore moins dans l'enceinte du centre. Non, ça va pas être possible, quoi. Donc, je suis pas tout seul, je suis avec mon collègue, parce que voilà. Donc, on a gentiment demandé à ce monsieur de partir. Et donc, il commençait à marronner, pour qu'il se prenne, enfin, pour qu'il vous compreniez, des choses comme ça, quoi. Donc, après.
Ah, il vous a pris d'eau, alors que.
Ouais, clairement. Comme je te disais tout à l'heure, il y a le type de parents pour qui on est juste un moyen de garde. Ils savent pas qui on est, ils connaissent pas nos prénoms, ils s'en fichent, d'ailleurs.
Ouais.
Et ça me va très bien comme ça, c'est pas grave.
Mais je crois que tu m'avais dit en plus que ce côté un petit peu enfant délaissé, parce qu'on parlait de misère un peu sociale, tu vois, tu me disais ça concerne un peu toutes les catégories sociales en fait. Tu peux être très riche et t'en battre les couilles de ton gamin et être très pauvre et la même chose, c'est un peu un truc commun quoi.
C'est ça en fait. Malheureusement, c'est peut-être le truc commun à tout le monde, c'est qu'en fait la misère elle est partout quoi. Tu peux, tu vois les clichés qui disent genre oui, forcément on a une plus belle éducation si on a grandi dans le 92. Je connais pas de ville très. Clamart par exemple, c'est que tu me dis le très riche de 92, j'en sais rien. On est forcément plus heureux que quand on a grandi à Bondy, c'est faux.
Ouais.
C'est faux parce qu'en fait, la misère sociale, elle est partout. Et dans une famille très très riche, on est peut-être encore plus malheureux que dans une famille très pauvre. Et peut-être que la famille de Bondy, qui vit peut-être avec pas grand-chose factuellement, eh ben, ils sont très heureux parce qu'en fait, ils sont entre eux, ils sont ensemble, etc. En fait, il n'y a pas de la misère sociale, elle est partout. Moi, j'ai vu des parents très très riches qui avaient des très bons métiers, qui payaient bien plein de choses pour leurs enfants, etc. Les enfants n'étaient pas forcément heureux. Ouais. Parce que tu vois pas ça, parce que papa il est pas là, parce que papa il est au travail tout le temps, parce que maman aussi elle travaille tout le temps, et donc du coup c'est nounou qui me garde, je vais au centre, et voilà, et il y a un autre enfant qui a pas forcément les moyens, et par contre il a passé le week-end au parc avec son père. Et donc là, tu vois, le bonheur il se limite pas forcément.
Non, on dit pas de la même manière quoi.
Exactement.
Et t'as des parents, tu vois, ils sont à vous, ils te disent ah ouais.
Ouais. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrivait souvent que des parents ils viennent me voir au centre en me disant je sais plus quoi en faire. Gardez-le, je peux plus. Faites quelque chose, Dylan.
Mais un peu sur ton humour ou...
Un peu sur l'humour, mais en vrai, un peu... ouais, ça m'est arrivé. Mais moi, ça m'est arrivé aussi parfois dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que je ne suis pas au travail. Je vais acheter le pain et un papa me croise avec une gamine. Ça tombe bien que je vous vois. Ah bah, alors, écoutez ce qu'elle m'a fait.
T'es le psy de la famille, t'es le psy des parents.
Et moi, je suis là, monsieur, je ne suis pas au travail, là. Ah mais oui, vous écoutez. Oui, vous écoutez, s'il vous plaît. Tu vois, ça m'est arrivé.
Est-ce qu'ils t'écoutent parce que tu leur accordes du temps? Peut-être c'est ça aussi.
Ils m'écoutent parce que déjà, on va être très clair, c'est que moi, j'ai pas de liens sentimentaux avec eux.
Ouais.
je suis pas leurs parents. Alors ça peut paraître trash ce que je vais dire, mais moi tu peux pleurer autant que tu veux. Si je t'ai dit non, c'est non. Mm. Pleure.
Ouais.
Ça, moi ça me gêne pas, tu vois. Et du coup, comme il n'y a pas le niveau sentimental avec eux, ils peuvent pas me manipuler. T'arriveras pas à me manipuler.
D'accord. Ils n'ont pas les ressorts pour.
Et non. Alors qu'avec, quand c'est ton père ou ta mère, bah tu vas manipuler, tu vois. Moi ça m'est déjà arrivé une fois, on va faire des courses avec des gamins au petit magasin à côté de chez nous pour faire un atelier cuisine.
Ouais, ouais.
Et le gamin, sûrement qu'il avait l'habitude avec ses parents de gratter un petit paquet de bonbons. Tu vois, au passage.
Arrive à la caisse.
Voilà. Et moi, il gratte avec moi. Mais je lui dis, mais en fait, on peut pas, mon petit chat, parce qu'on a un budget. Il se met à faire une crise. C'est-à-dire qu'il se jette par terre, il commence, je veux mes bonbons. Je lui dis, bah, c'est bien, bah, tu vas rester là et faire ta crise. Et sûrement que le parent, il se serait jeté, bah, c'est bon, allez, prends tes bonbons, machin. Et moi, je m'en fiche, moi. Ah, tu veux? Eh bah, ok, on va attendre. Hein, et quand ça sera fini, bah, tu auras fini ta crise. Et du coup, en fait, bah, comme il n'y a pas ce lien-là, et bah, en général, ils écoutent pas mal. Ouais.
Est-ce que parfois, à la fin de la journée, ça t'arrive d'aller voir des parents? Tu dis que tu gardes un peu tes nerfs, t'es un peu distant, mais. Je pense qu'à la fin de la journée, tu as envie d'aller voir les parents en leur disant « Votre gamin, il ne s'est pas tenu très bien. » Si tu as eu des parents, tu vois, qui l'ont mal pris, genre leur enfant, il ne fallait pas le toucher, ou qui, justement, ont pris ta défense et ont, tu vois, un peu engueulé leur gamin derrière.
J'ai de tout. Ouais. J'ai à la fois des parents qui vont être capables de me dire « Tu vois, t'es pas sage avec Dylan, tu vas voir ce qui va t'arriver. » Tu vois, genre en mode « Nous, quoi qu'il arrive, il a raison. » J'ai eu ça.
T'as eu ça?
Ouais, j'ai des parents qui me disaient, ils me donnaient leurs enfants, ils me disaient « Vous avez carte blanche, hein, s'il est pas sage. » Nous, on vous fait confiance. Hein. Ouais. Après, je parle de moi personnellement, mais l'équipe en général, c'est attention, hein. Il a le moindre truc, pas de problème. Hein. Okay. Et on a l'inverse, c'est impossible, mon fils, il ne ferait jamais ça. Ah, si, monsieur, je vous le dis, non.
Il n'y a pas de discussion. On a deux sens, c'est les extrêmes.
Ouais,
quoi.
On a les extrêmes. Et un truc qui m'avait beaucoup marqué, et ça a beaucoup remis en question ma vision de est-ce que j'en discute ou pas avec les parents du comportement des enfants. Après cette situation, je me suis dit, des fois, c'est peut-être mieux de régler moi, l'enfant, basta.
Essayer de lui expliquer au mieux.
Voilà. C'est qu'un soir, il y avait un enfant qui était vraiment assez turbulent, qui était assez casse-pied, ça faisait plusieurs fois qu'on le reprenait. Faut bien se dire qu'on va pas voir le parent la première bêtise d'un enfant. Hein.
T'attends, tu prends sur toi,
Il y a toute une échelle des sanctions avant qui fait qu'on va parler avec lui, on va mettre des choses en place. Et vraiment, aller voir les parents, c'est le dernier recours de « là, gars, t'as dépassé toutes les limites, on va aller en discuter avec tes parents ». Et donc là, c'est arrivé à ce point-là. Et donc, c'est papa qui vient récupérer et je vais commencer à discuter avec le papa et je dis « voilà, bah… » C'est après dans la journée, votre enfant il a pas été super sage, il a fait ci, il a fait ça comme bêtise. Et là le père il me regarde comme ça, il m'a dit ok pas de problème. Il a enlevé comme ça, il a commencé à déboutonner sa ceinture.
Oh non.
Je te jure que c'est vrai. Devant le centre, genre devant des gens et tout, en mode genre ah il a pas été sage. Ok. Genre je vais sanctionner quoi.
Il voulait taper son gamin là en direct live devant tout le monde.
Ouais. Et donc là j'étais ah mais monsieur faut arrêter, enfin non. Il a déjà été sanctionné, genre on l'a déjà sanctionné, on lui a déjà dit. Là, c'est juste de l'information pour si vous pouviez en discuter avec lui à la maison, c'est mieux.
Ouais, mais là, il peut
taper, il n'y aura pas de discussion. Et donc, du coup, quand tu vis ça, je me suis dit, franchement, j'ai mal dormi parce que tu dis, ça se trouve, le gamin, il est rentré à la maison, il s'est pris un coup de ceinture, clairement. Et du coup, après ça, je me suis dit, genre, plus jamais j'irai discuter avec cette famille de problème avec l'enfant. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, j'en ai parlé avec l'équipe. Et voilà, si on doit régler un problème, c'est nous, l'enfant.
Oui, parce que là, tu as vraiment. Pris conscience qu'il aurait pu se prendre, peut-être qu'il s'est pris d'ailleurs à la maison.
Et je me dis, ça se trouve, ça faisait déjà un petit bout de temps que je travaillais, ça se trouve, il y a plein de moments dans ma vie où il y a des enfants qui se sont fait taper ou machin, etc., parce que j'ai dit aux parents, il a pas été sage et tout. Et quand ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est déjà arrivé que des enfants se fassent taper à cause de moi. Depuis ce jour-là, je me suis dit.
Je règle différemment.
Ouais. Alors, ça m'arrive encore de discuter avec des parents, mais je prends la discussion différemment, quoi. Et il faut que je sois sûr que le parent, il est dans une capacité de. D'écoute et de discussion pour avancer les choses.
Les gens de podcast.
Tu dis pas punition, tu dis sanction.
Ouais.
Pourquoi tu fais une.
Parce que c'est pas la même chose.
Parce qu'on dit, tu vois, quand t'es primaire, t'as 29 ans, j'en ai 31. Quand j'étais au primaire, ok, bon, punition, t'as 50 lignes à écrire.
Ouais.
Punition, tu vas au coin, punition, machin. Pourquoi tu dis pas ce mot punition?
Parce que la punition, elle sert à rien. Est-ce que t'as appris quelque chose d'avoir écrit tes 50 lignes?
Absolument pas.
Ben voilà. La sanction, elle a deux vertus. D'un côté, elle est positive. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir une vertu positive. Tu vois, le permis de conduire, il te sanctionne du fait que tu aies réussi l'examen du code de la route et de la conduite. Le bac, il te sanctionne de la réussite de tes études, etc. Tu vois. Et elle a aussi une vertu, entre guillemets, négative, où elle va poser un point sur un prêt en disant là, ce que tu fais, ce n'est pas correct, il va falloir que tu progresses. La sanction, elle a pour but d'être dans un état d'esprit d'amélioration, de compréhension de ce que je fais n'est pas bien, et du coup, que je vais m'améliorer. Vous voyez?
Okay.
Et donc c'est ça la différence. La punition, quand tu regardes la définition, c'est quand même c'est le fait de faire subir à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie. Tu vois? La punition, si on prend au Moyen-Âge, c'est de la torture, quoi.
Ok, je comprends.
Il y a un truc qui se passe souvent au centre de loisirs, c'est un enfant, il est passage, on lui dit « va t'asseoir sur la chaise à réfléchir ». Le gamin, il est là, ok, il va s'asseoir. Il s'assoit sur la chaise pendant 10 minutes. Et après, l'animateur, il vient le voir, il lui dit « c'est bon, t'as réfléchi ? Ouais, tu vas recommencer ?» Bah non. Ok, allez, c'est bon, va jouer. Mais en fait, il s'est rien passé, le gamin, il a rien compris.
Il a pas dit, bah,
tu l'as pas aidé. Enfin, tu vois, ça sert à rien, en fait.
Ouais.
Une vraie sanction, c'est. Alors, une sanction, c'est pas non plus. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus, hein. C'est pas que de la discussion et de dire, ah là, mon petit chat, t'as compris, c'était pas bien. Mais tu vois, la sanction, ça peut être aussi un moment de dire, bah maintenant, c'est fini. Tu vas sortir du groupe, tu vas arrêter de jouer avec les autres parce que t'es pas en capacité de jouer avec les autres, on va faire autre chose. Bah, tu vois. Mais lui dire à un enfant, bah tu vas au coin, ça sert à rien. Et du gars, ouais, dans le film Nos jours heureux, qu'est-ce qui se passe à un moment le directeur, il punit un enfant, il l'envoie dans la buanderie et il l'oublie. Bah ça, moi, ça m'est arrivé en vrai. Ça m'est déjà arrivé.
T'as oublié de dépunir ?
Moi, non. Mais tu rentres dans une salle, t'as un gamin qui est assis, que tu fais là. Bah, c'est machin, il m'a puni. Mais depuis quand ? Bah, je sais plus et tout. Putain, mais c'est quoi ce délire ? Tu vois ? Ouais, parce qu'en fait, la vie, elle a continué. T'es passé à autre chose. Et il est pas tout seul. T'as 35 autres enfants à t'occuper. Donc, du coup, tu te dis, vas-y, lui, il casse-pied. Bah, va t'asseoir là-bas 5 minutes. Puis toi, tu fais autre chose. Et d'un coup, tu te dis, oh putain, c'est vrai, j'ai oublié.
Ça devient un réflexe pour l'animateur, peut-être, pour certains en tout cas, de dire, ok, bon, hop, je m'en débarrasse. Mais ça sert à rien, le gamin, il
réfléchit pas. Parce que du coup, il a pas compris pourquoi t'étais en colère, il comprend pas toujours pourquoi bah, ouais, il a fait, ce qu'il a fait de mal, et tout ça, quoi.
Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gestes, tu vois, parfois d'incontrôle, par exemple, d'un animateur qui va mettre une gifle ou bousculer un gamin, ça arrive, ce genre de choses.
Moi, personnellement, j'en ai jamais vu, et heureusement. J'ai jamais vu, moi, personnellement, un animateur gifler un enfant. Maintenant, j'imagine que c'est déjà arrivé et que j'ose espérer qu'ils ont été sanctionnés pour ça. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de voir des animateurs vraiment qui craquent et à bout de nerfs et pas forcément taper, mais des fois un peu saisir un peu fermement un enfant.
D'accord.
Ou vraiment hausser le ton très très fort sur un gamin, des choses comme ça. Ça, c'est déjà arrivé. Il faut imaginer, et ça arrive souvent, c'est plutôt en séjour. Parce que la fatigue avec et tout.
Le matin, la nuit, le ciel, ça. Ouais.
Ces jours, c'est 24 heures sur 24. S'il y a un gamin qui se réveille à 3 heures du matin, tu dois te réveiller, tu dois être là. C'est 24 heures sur 24, on continue avec beaucoup d'enfants, beaucoup de monde, c'est de la vie en collectivité, il y a la fatigue, il y a tout ça. Donc des fois, oui, forcément, les nerfs, ils sont, c'est difficile, ouais.
Ça, c'est
la gestion de tout ça, ça devient difficile.
Bah oui. Si tu en vois un qui fait un geste, c'est exclusif, définitive. Ouais.
Oui, c'est impossible.
Ouais.
Impossible. Tu vois, il y a 25 ou 30 ans, on entendait que les jeunes, ils disaient, bah, ma maîtresse, elle m'a mis une claque, quoi,
m'a tapé sur la règle. Sur les doigts.
Ouais. Même moi, quand j'étais petit, tu vois, ça n'a rien à voir avec l'animation, mais j'avais un prof de judo, quand t'étais passage au judo, il te mettait un petit coup de ceinture sur les fesses avec la ceinture.
Ouais.
Et moi, quand j'allais voir ma mère en disant, ah, le prof, il m'a fait ça, ma mère, elle me disait, bah, c'est sûrement que tu l'as mérité. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça.
Tu vois, ma mère était un peu comme ça. C'est sûrement que tu l'as mérité. Alors, c'est une mère hyper aimante, c'est un amour. Mais tu vois,
là,
maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que là, n'importe quel animateur, juste, il pourrait même faire le geste vers un enfant, mais c'est fini, t'es mort. Tu te fais virer, les parents,
c'est beaucoup plus
total.
Est-ce que c'est dans le bon sens? C'est bien finalement que, selon toi, est-ce qu'il y a un avis à avoir là-dessus?
Est-ce qu'il y a un avis? Tout le monde peut avoir un avis sur tout. Est-ce que c'est bien qu'on arrête de taper les enfants? Forcément, oui.
Forcément, ouais.
Maintenant, est-ce que c'est bien que les parents ils soient aussi pointilleux parfois pour pas grand-chose? Forcément, non.
Mm.
Tu vois, des fois, on est vraiment sur des trucs. Vraiment, vous voulez qu'on perde du temps à discuter pour ça? Pour un bonnet?
Il y a un truc chez les gamins aussi, j'ai remarqué, j'ai pas de gamins, moi. Je sais pas, t'en as pas non plus.
Non, pas encore.
Et il y a de plus en plus de parents qui cherchent à tout prix à ce que leur gamin soit différent dans le sens positif.
Parce que HPI, c'est-à-dire que t'es vraiment en avance, t'es vraiment en décalage par rapport aux gens de ton âge, t'es vraiment en avance pour tout.
Enfin, totalement.
Ça doit être hyper chiant quand t'as 6 ans et de discuter avec des enfants de 6 ans qui n'ont pas la même discussion que toi, quoi. Il y en avait une il n'y a pas longtemps, alors ça c'était très drôle. Elle est en CP. La maîtresse dit clairement, bon, il y a un petit retard.
Ok.
On sent dans ce qu'elle apprend à l'école, il y a un petit retard, c'est un peu difficile. Et du coup, ce qu'elle propose, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les APC. Et en fait, les APC, c'est un petit moment d'une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une fois dans la semaine, où elle est juste, elle, la maîtresse, pour essayer de rattraper et compenser ce retard scolaire.
Okay, okay.
Hyper bonne initiative et tout. Elle en discute avec la maman contre tout. Non, c'est mort, impossible et tout. C'est pas vrai, pas possible. Parce que ma fille est HPI. Mais non, votre enfant, elle n'est pas HPI. Si, elle parle anglais. Ah bon, elle parle anglais, votre enfant? Mais oui, écoutez. Et là, elle lui montre une vidéo où la gamine, elle dit « Hello, hello !» Vous voyez, elle parle anglais. Je te jure que c'est vrai. Et donc là, il lui dit « Mais... Elle parle pas anglais, elle a juste dit deux mots d'anglais. » Enfin, vous voyez? Oui, mais c'est parce qu'en fait, elle s'ennuie en classe à cause de vous. Elle dit ça à la maîtresse.
Oh wow.
C'est parce qu'en fait, vous, comme...
C'était pas sa faute, c'était pas la faute de la gamine.
Non, comme vous êtes pas une bonne maîtresse, du coup, elle s'ennuie. Du coup, elle vous montre pas son potentiel intellectuel. Sauf qu'en fait, non, juste en fait, ton enfant, il est normal, il est même limite un peu en dessous, et du coup, en fait, on est en train de te proposer de l'accompagner, tu vois.
Oui.
Mais on en revient à pareil que l'enfant qui était sur tout à l'heure, c'est que c'est hyper difficile pour une famille de pouvoir entendre que son enfant, il soit un peu différent et qu'il soit pas forcément...
Et puis après, il y a la remise en question. Ce qui est triste là-dedans, c'est que t'as des maîtresses, des professeurs, des gens de la, des animateurs qui vont se remettre en question.
Ouais.
Moi, ma copine est prof, et des fois, elle rentre le soir, elle me dit « Putain, mais je dois me remettre en question, j'ai fait remplir un formulaire, tu sais, de satisfaction. Mmh. » Et forcément, les gamins, ils ont des sales notes, ils sont pas satisfaits. Mais c'est ça aussi la réalité, tu vois. Et il y a un côté un petit peu trop tendre où finalement... Bon...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
L'espace, c'est... Oh, il a 6 de moyenne. Laissons-le passer en licence, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais non, en fait.
Bah, tu vois, regarde, dernièrement, pendant très longtemps, les parents n'avaient pas leur mot à dire dans le redoublement d'un enfant.
Mmh, c'est vrai.
Moi, ma génération, quand le prof il te disait « Il n'a pas le niveau pour passer en CM2, il redouble, basta.
Ouais, » ouais.
Depuis quelque temps, ça a changé. Et maintenant, les parents, s'ils ne veulent pas que l'enfant redouble, il ne redouble pas. Comme ça, il paraît normal. Sauf qu'en fait, bah, prendre du retard à ce moment-là, bah, c'est encore plus prendre de retard par la suite. Et du coup, on se retrouve avec des enfants qui sont vraiment en galère.
Bah, au mieux l'aider, qui repassent l'année, qui soient meilleurs après, qui soient assurés. Peut-être que c'est tout, une question de développement. Quoi.
Et donc oui, ça, il y en a plein qui sont comme ça. Ils sont, voilà, ils sont tous, depuis, ils sont tous HPI, ouais. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de Montessori, c'est pareil, il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui se disent être de Montessori, alors que pas du tout.
D'accord.
Moi, j'ai eu une discussion, ça m'avait fait beaucoup rire, j'avais une discussion... on ne peut pas expliquer ce que c'est que Montessori parce que c'est trop compliqué.
C'est une méthode d'enseignement un petit peu nouvelle, novatrice, qui met un peu l'enfant au milieu de tout.
L'enfant est acteur de ses apprentissages, en fait.
Il apprend ses émotions, il apprend à se connaître, il apprend plein de choses.
Et en fait, on a placé la grande phrase de Montessori, c'est le sujet de l'apprentissage, c'est l'apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, on a replacé la personne qui apprend au centre de c'est quoi apprendre. Et donc, du coup, ça fait beaucoup parler parce que c'est génial. Et en effet, c'est génial. Mais une vraie école Montessori, c'est 10 000 balles l'année.
C'est hyper cher.
Dès la maternelle, tu vois. Et donc, il y a des gens qui essaient de s'inspirer de ça. Et une fois, j'avais une discussion avec une maîtresse de maternelle qui dit « Oui, moi, de toute façon, j'apprends aux élèves avec une inspiration Montessori. » Moi, ça m'intéresse, je suis hyper porté sur cette nouvelle pédale-là. J'ai pas du tout la prétention de dire que je saurais faire, mais au moins, ça m'intéresse. Ouais. De ouf. Et donc je discute avec elle, ça tombe bien. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai un collègue à moi qui a monté une école Montessori, donc je connais un petit peu, un collègue formateur. Et donc je lui dis, raconte-moi ce que tu fais de Montessori, c'est hyper intéressant. Et elle me dit, dans ma classe, j'ai mis les tables en îlot.
En îlot ?
Ouais. Donc en fait, elle a collé 4 tables. Et donc du coup, elle dit comme ça, les enfants, ils apprennent les uns des autres. Ouais, du coup, j'ai fait du Montessori.
Ils sont juste pas à côté, ils sont face à face. Quoi.
Et en fait, je lui dis, c'est pas Montessori ça. Dans plein de classes, ils le font. Non mais. Petit animateur que tu es, tu ne peux pas comprendre. D'accord, très bien. Bon, on va s'arrêter de discuter, alors ça sert à rien.
Ok.
Donc, ouais. Et en fait, ça influe même sur les profs parce que forcément, quand tu vends une école maternelle inspiration Montessori, il faut que tu puisses le justifier, tu vois.
Ouais, le mot mis à n'importe quel usage, ça a plus de valeur après.
Mais surtout qu'en plus, pour être Montessori, c'est un brevet que tu dois avoir.
J'imagine que ça doit être quelque chose, quoi.
Tu mets pas ça sur ton école comme ça et d'un coup, t'es Montessori. Hein.
Tu parlais des séjours tout à l'heure. Tu disais que c'est là où tu découvres le mieux les gamins, qu'il peut se passer des choses puisque les animateurs sont un peu sous tension. Que les gamins sont hyper excités et tout. Tu as fait beaucoup de ski. Tu m'as dit que principalement tes colos, c'était
principalement,
du ski.
C'était des colos de ski. Ouais.
Et tu me racontais l'histoire de. Toi, tu avais eu beaucoup d'accidents sur la première session de ski que tu avais pu faire.
Ouais.
Je crois que tu avais eu cheville pétée, tu avais même eu quelqu'un
qui
en civière.
Tous les jours.
Et tu as une collègue, une amie, je crois, ou un pote.
C'est un collègue, ouais.
Ah, c'est un collègue qui avait eu une histoire un peu dingo avec des enfants. C'était quoi cette histoire?
Forcément, quand tu pars au ski, c'est un contexte particulier, c'est un séjour particulier parce que c'est dangereux, le ski. On n'est pas maître de tout parce qu'il y a aussi des particuliers qui sont sur les pistes, on ne peut pas privatiser la piste.
Évidemment.
Donc forcément, on ne peut pas tout faire tout ça. Et que nous, en tant qu'animateurs, on n'est pas prof de ski. Donc nous, on n'apprend pas aux enfants à faire du ski. On peut faire du ski libre avec eux, mais techniquement, on n'est pas censé leur apprendre la bonne technique pour skier. Donc on est accompagné de profs SF. Pour mettre
SF,
le contexte,
c'est école de ski française.
Escorte de ski française. Ouais.
Non, c'est pour les gens qui
bien sûr. Je ne vais pas généraliser, mais très souvent, dans 90% des cas, ça se passe très bien avec les écoles de ski françaises, avec l'ESF, ça se passe très bien. Et de temps en temps, il y a toujours des brebis galeuses partout. Les profs de ski, ça les emmerde d'avoir des groupes. Quoi. Ça les fait chier parce que c'est mou, parce que faire du piou-piou, ça les emmerde. Parce que c'est pas
plus des cours. Petits, c'est
voilà, c'est ça. Et faire du cours privé, ça paye plus que faire ça.
Oui,
et donc, ça arrive que de temps en temps, il y a des profs qui ne sont pas terribles. Et donc là, en l'occurrence, de mémoire, l'histoire, c'est un prof qui n'était pas terrible. Moi, j'étais petit quand c'est arrivé cette histoire à mon collègue, parce que c'est un gars qui est de ma génération que je connais à qui c'est arrivé. Et donc, ils partent au ski, et je crois que c'est le lendemain où ils arrivent. Donc, pour se faire une image, on voyage en car. Ouais. Donc, bah, on passe la nuit dans le car.
Classique bus.
Donc, tu arrives le matin, t'es fracasse, t'es cuit, t'es fatigué, t'es épuisé. Donc, la première journée, c'est je pose mes bagages, je m'installe vite fait, je mets mes chaussettes pour essayer les chaussures de ski, et l'après-midi, on skie. Et donc, nous, on a toujours dit aux profs de ski, voilà, comme on arrive, ils ont passé la journée dans le car, ils sont fatigués, allons-y mollo sur les pistes, quoi. Les petites pistes tranquillou, juste pour que vous voyez un peu le niveau, mais commencez pas à les mettre sur des rouges ou des noirs. Oui, t'inquiète pas. Et en fait, là, ce qui s'est passé de l'histoire, c'est qu'à un moment, ils partent avec le prof, sauf qu'il y a un peu de brouillard, etc. Le gamin, il rate la piste, il tombe dans le ravin et il se prend un arbre.
Oh, wow.
Et du coup, il s'empale...
Il tombe d'un ravin,
il sort de la piste et il s'empale dans l'arbre. Okay. Et donc, la totale, hélicoptère, la barquette et tout. Donc, forcément, mon collègue en panique, potentiellement, le gamin est mort, quoi. Tu vois,
c'était pareil, c'est-à-dire qu'il pouvait mourir à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est fou.
Et donc, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que de mémoire, il a eu un truc du style foie perforé, rate éclaté, enfin, un truc comme ça. Il a fait de l'hôpital, je crois que c'était sur Grenoble, pendant un petit moment avant d'être rapatrié sur là où on habitait, mais enfin, moche, quoi.
Ouais, quand même.
Et moi, j'ai eu un séjour, alors c'est beaucoup moins grave que ça, mais même principe, on voyage de nuit, je suis avec un groupe, et moi j'avais le groupe des un peu plus forts, je dis au prof le premier jour, voilà, ils viennent de passer la nuit dans le car, on est tous fracasses, même moi je suis cuit, si on peut y aller mollo, ça serait cool. Quoi.
C'est bien, ouais.
Le prof, écoute, je connais mon taf, je sais ce que je fais, tu vois, un peu la trace des lunettes de ski, le gars il a la piscine,
trop bronzé.
Voilà, le mec est trop bronzé, tu vois. Genre vraiment, il part sur la piste en marche arrière en faisant genre, allez, petit chat, on y va. Et en fait, il rentre dans une piste, il prend un border cross, sauf qu'il prévient pas les gamins que c'est un border cross.
Ah.
Le principe d'un border cross,
c'est boss.
Ouais. Sauf qu'en fait, il dit au gamin, allez, on y va, c'est parti. Puis lui, il rentre dedans. Mais lui, le premier gamin qui part, bah lui, c'est parti. Donc il prend le border cross, il prend la bosse, il décolle de la bosse, il s'éclate par terre, comme ça.
Oh.
Et il se relève pas. Et moi, je suis à la fin du groupe.
Tu gardes le groupe, quoi.
Voilà. Et moi, je vois le premier gamin qui saute.
Le premier gamin en plus.
Et qui s'éclate. Et je fais, oh putain. Et donc là, tu dis, barquette,
bah, panique. Total.
Tu arrives, les gamins. Alors, ils ont tous casqué, obligatoire pour tout le monde.
Oui, oui.
Casqué, il y a même des parents qui mettent coudière, genouillère, enfin la totale. Ouais. Voilà, casque obligatoire, c'est non négociable.
Ah, évidemment.
C'est ça pour les enfants.
Ça, c'est pour tout le monde, hein, je pense, il faut le rappeler. Mais
ah ouais, c'est non négociable.
Les pistes, l'hiver, ça va tellement vite. Même si tu fais du hors-piste, surtout quand tu fais du hors-piste.
Ça va tellement vite, non négociable. Et donc, on arrive, et du coup, moi, le prof, je l'ai insulté. Je lui dis, bah, tu vois, pitchou louloute, les petits chats, on y va, regarde, tu vois. Et donc barquette, la totale, premier. Et donc il a fait un mini trauma crânien et tout, tu vois.
Ah,
ah oui. Et donc il est quand même resté avec nous sur le séjour.
Quel âge avait le gamin?
Il avait. Alors c'est là, tu vois, c'est le séjour que j'avais fait en pré-ado ado.
Ah oui.
Donc okay. C'est un gamin qui a l'âge de mes frères, donc c'est en 2003. Et donc à l'époque, il devait avoir, je sais pas, 12 ans. 11-12 ans, quoi.
Okay, okay.
Donc il a quand même pu rester avec nous sur le séjour. Il a pas skié le lendemain et on l'a dû le garder en observation. C'est-à-dire que pendant la nuit, il y a un anime qui se levait toutes les deux heures pour aller le voir, genre, bois un peu d'eau, est-ce que ça va, t'as pas envie de vomir?
Oui, si jamais, ouais, c'est des vomissements.
Voilà, c'est ça, exactement. Parce que souvent, le trauma crânien, ça peut arriver, genre, 8 heures après, tu te mets à vomir d'un coup, et en fait, t'es en train de faire une hémorragie au cerveau, quoi. Et donc, on l'a galé sous surveillance. Et donc, toute la semaine, on a eu ça. C'est-à-dire que toute la semaine, on a eu des blessés.
Un jour, une galère, quoi.
Tous les jours, la directrice, elle en pleurait. C'est-à-dire dès qu'on l'appelait, on lui disait, allô, encore un blessé? Oui. T'inquiète, il est pas mort. Ça va. OK. Mais tous les jours, des blessés, quoi.
C'est fou. Toi, tu as vécu des histoires aussi où les parents oublient complètement leurs enfants.
Oui.
Est-ce que c'est des oublis parfois juste de temps, vraiment une erreur de calendrier, ou il y en a vraiment qui vraiment en aura le bol de leurs enfants, qui ne font pas attention à eux?
C'est difficile à dire ça quand on ne vit pas avec eux, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Je me rappelle d'un oubli qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'année dernière, aux vacances de février. On rentre de séjour de ski, du coup, c'était moi le directeur. Et pour que les gens aient une image, quand tu prépares un séjour de ski avec des enfants, autant te dire que c'est beaucoup d'organisation, de préparation, qu'il y a des réunions avec les parents, que tout le monde est au courant de à quelle heure on part, à quel endroit, à quel jour, etc. Et le retour, pareil, quoi.
Papier imprimé.
Tout. Une lettre officielle de la mairie, total, quoi. Et là, on rentre du séjour, donc on est samedi matin, on arrive vers 8h, 8h30, et le retour d'un séjour de ski, ça dure 20 secondes. C'est-à-dire que les enfants, ils sortent du car et tout le monde se...
Ah oui, c'est-à-dire
qu'ils
ont hâte de rentrer à la maison.
Ouais, ils veulent rentrer, ils veulent voir leurs parents. Voilà, tout le monde va très vite. C'est samedi matin, déjà, c'est relou pour les parents de se lever et de venir. Ça va très vite.
Ouais.
Et nous, pendant ce temps-là, en général, on range le matos et tout ce qui va avec. Quoi. Et à un moment, on range le matos et tout, et je me tourne, comme ça, et il y a un gamin debout tout seul avec une valise. Je me dis, ouais, personne n'est venu te chercher. Il me dit, non. Bon, il est 8h45, je me dis, on arrive à 8h15, bon, tu vois. On attend un petit peu, puis 9h, puis 9h15, puis 9h30, là, tu te dis, bon. Ça pue. Entre-temps, forcément, on commence à appeler.
Ouais, bah oui.
Les numéros qu'on a
dès la demi-heure d'attente. Bah,
bien sûr. Sur les numéros qu'on a de la fiche sanitaire des enfants, on a des numéros d'appeler.
Les parents. Combien de contacts? T'as 2-3 contacts là.
En général, t'as les deux parents plus 3-4 contacts. Souvent, c'est papy, mamie, tonton,
oui,
tata, le meilleur ami. Enfin voilà. Donc t'appelles, ça répond pas. T'appelles 1, 2, 3, 4, ça répond pas. Personne répond. On est le week-end, donc moi, la mairie, elle est fermée. Donc moi, mon chef de service, il est pas là.
Ah, wow, okay.
Donc j'appelle mon chef de service, je le réveille. Machin, il me reste un enfant et tout. Oh, c'est la galère. Il me dit, écoute, je regarde les numéros que j'ai et puis on se tient au courant. Donc il regarde les numéros qu'il a, il a les mêmes que mien. Tu vois. Et personne. La gardienne qui est là, qui nous ouvre, elle me dit, mais moi, je les connais, eux, je sais où ils habitent. Elle me dit, je vais toquer chez eux. Elle prend sa voiture.
Okay, bien.
Et il va, personne répond. Elle revient. Je me dis, ouais, c'est chaud et tout. Et on 10h30, quoi. Donc moi, je dis aux collègues, bon, bah, pour ceux qui n'habitent pas là, si vous voulez rentrer, machin, etc., vous rentrez.
T'as quoi comme possibilité à ce moment-là? C'est-à-dire que tu peux pas récupérer les gamins? C'est pas possible.
Ah non, mais non, tu peux pas.
Tu peux pas les ramener.
Maintenant, t'es à moi.
Non, mais je t'ai préparé un lit pour ce soir, tes parents, là. On les appelle demain, tu peux pas faire ça.
C'est pas possible, en termes de réglementation et tout, c'est pas possible, tu vois. On pourrait m'accuser d'avoir kidnappé un enfant,
ouais, quoi, c'est comme ça. Tu vois, les parents l'ont oublié, mais après, c'est toi qui prends, tu vois.
Ouais, bien sûr. Donc non, c'est pas possible. Donc moi, je vais avec mon chef de service, je lui explique, machin, et il me dit, bah écoute, la solution, c'est que si ça dure trop longtemps, c'est moi qui prends sa place. En gros, lui, dans ses missions, voilà, en tant que responsable, et bah, je prends ta place. Donc on attend, etc. Finalement, la gardienne retourne une deuxième fois pour aller toquer, et enfin, quelqu'un sort, quoi. Mais bonjour, c'est pourquoi? Ben, en fait, il y a juste votre enfant qui attend depuis 2 heures devant le centre, quoi. Ah là là, c'est aujourd'hui, on pensait que c'était demain, nanana. Quoi?
Oh, wow.
Mais comment ça? Donc elle vient, elle le récupère, et en détente, hein. C'est genre, bon bah attendez, j'arrive, je vais me changer, tu vois, détente. Non, t'as pas compris. Viens en pyjama là. Tu mets tes hugs, tu rentres dans la voiture et puis tu te dépêches quoi. Okay. Donc elle arrive, elle récupère son gamin et elle s'excuse auprès de moi. Moi je lui dis, mais moi je m'en fiche de vos excuses madame. C'est auprès de votre enfant que vous vous excusez.
Il est en panique le gamin en plus.
Et le gamin, mais d'une dignité, il était debout, il tenait juste sa valise comme ça et il y avait juste la larme qui coulait comme ça le long de la joue. Et je lui dis à la maman, je lui dis, mais vous vous rendez compte dans quel état vous mettez votre enfant? Moi je m'en fiche. Moi je l'ai recadré, je lui ai fait un petit rappel quand même. Je lui dis, maman, c'est inadmissible votre comportement. Je lui dis, mais c'est pas moi qu'il faut s'excuser, c'est à votre enfant. Parce que lui, là, le pauvre, imaginez ce qu'il vient de vivre. 1h30 qu'il est là, avec que les animateurs, qu'il a vu tous ses potes partir avec ses parents, il est tout seul.
Ouais.
Vous l'avez oublié, quoi. Horrible.
Ta mère, elle a vécu un truc pareil, tu m'en as parlé. Ça t'avait pensé à une anecdote que ta mère t'avait raconté aussi.
C'est ça.
Elle avait vécu quoi, elle?
Ok, c'était encore pire. Mais je sais même pas si j'étais né, ou alors je devais être vraiment très très jeune, quoi.
Ok.
Elle était animatrice, et c'est pendant une semaine de vacances, et c'est les vacances de Noël.
Okay.
Et voilà, et donc le jour de Noël, donc le 24, en fait, l'accueil de loisirs est ouvert et souvent il ferme un peu plus tôt. Et voilà. Arrive le soir, et puis il y a un enfant qui est encore là. Et l'heure est passée.
Ok. Donc on est le 24 décembre.
On est 24 décembre, l'heure est passée. En général, ça fait à peu près une heure plus tôt, donc en gros,
oui,
on
est à 18h. Pour que les gens rentrent, fassent leur
fête. Et pour que les animateurs puissent rentrer auprès de leur famille aussi, quoi.
Ouais.
Donc 18h passées, il n'y a personne. Ils essayent d'appeler. Bon. Et je te parle de ça, c'était il y a 30 piges. Donc ça veut dire, enfin 25-30 ans.
Oui,
c'est-à-dire,
début 2000,
en termes de technologie, on n'est pas maintenant où tout le monde a un téléphone dans la
c'est
poche.
C'est le téléphone fixe du boulot ou le téléphone fixe de...
Voilà. Il y en a un peut-être qui a sur le couple qui a un téléphone portable, sinon le reste c'est du fixe. Hein. On appelle un numéro, maman, ça ne répond pas. On appelle papa, ça ne répond pas. Au moment d'un moment, ils arrivent à avoir quelqu'un. Donc, je crois que c'est papa en premier.
Ouais.
Donc là, c'est pas ma mère qui appelle, hein, c'est la directrice.
Oui,
qui appelle.
Oui, oui, oui.
La directrice appelle et dit, bah monsieur, il y a encore votre enfant au centre, etc. Ah mais non, c'est pas à moi de le récupérer cette semaine. En fait, les parents étaient divorcés.
Okay.
C'est sa mère qui a la garde. Moi, je suis pas là de toute façon. Je suis en voyage avec ma nouvelle compagne. Je peux pas venir, en gros.
Machin. Ok.
Bon, pourquoi pas. Elle appelle maman et là, maman dit pareil. Ah non, mais c'est pas ma semaine, c'est la semaine de papa.
Oh, wow.
Moi, c'est pas à moi de venir récupérer.
C'est bien la semaine des deux quand même.
Oui, mais en fait, chacun, il se renvoyait la balle.
Oh, wow.
Et genre, en mode, et moi, je suis pas en région parisienne, je pourrais pas venir le chercher. Mais du coup, on fait comment? Ah, bah, vous vous débrouillez avec son père, c'est sa semaine de toute façon. Ok. Et donc, du coup, je m'ai appelé tous les numéros à côté.
Ouais.
Et en fait, je crois que. Donc, la directrice, elle avait été sympathique, elle avait laissé partir ma mère pour qu'elle puisse venir passer Noël avec nous en famille. Mais je crois qu'elle est partie, il était déjà pas loin de 20h.
Oh,
18h, enfin, tu vois. Et je crois
qu'il y a quelqu'un. Quoi.
Et le gamin. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu le récupérer, il était 22h passé.
Le jour de Noël, quoi.
Le jour de Noël. Et c'était genre la cousine de la tante, de l'oncle, tu vois, un truc comme ça, quoi.
Vraiment, la dernière personne de la famille qui pouvait le récupérer, quoi.
Tout au bout de la liste. Genre, vraiment, c'est le dernier numéro que t'appelles en cas d'urgence.
Hyper triste.
Voilà, ouais, très ouf.
Les gens de podcast.
Tu penses qu'il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants?
Je
vois ce genre de
choses. Je pense, enfin, ça serait dur de dire ça, mais je pense qu'il y a des parents qui n'étaient pas prêts à être parents et qui le sont devenus par la force des choses, et qui du coup peut-être se rendaient pas compte de ce que c'était réellement d'avoir un enfant. Tu vois, une famille, papa, maman, ils ont un enfant. Et déjà, pour certains, c'est difficile. Et nous, au centre, on a des fois 200 enfants, ou 150 enfants, qui sont pas les nôtres en plus, et on les a tous en même temps. Et des fois, il y a des parents qui nous disent, mais je sais pas comment vous faites. Déjà, moi, avec un, j'ai du mal, comment vous faites-vous? Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'a pas le même lien de sentimental qu'avec eux, donc voilà.
Évidemment. Sur l'émission, on a pensé à Happening avec Louis et Julie, qui sont auteurs avec moi. On a pensé aux faits divers qui sont passés avec des enfants, okay, dans les centres de loisirs, chez les scouts, à l'école, tu vois, ou qui s'impliquent des gamins. Je vais te les proposer, tu vas me dire si, selon toi, ce sont des vrais faits divers,
okay,
ou des faux faits divers. Et peut-être que tu auras même des histoires qui font penser à des histoires que tu as vécues, tu vois.
Allez, on fait ça.
Le premier, c'est un centre de loisirs qui a puni l'enfant de 4 ans en la scotchant à sa chaise.
Si c'est vrai, c'est hardcore quand même. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça puisse être vrai.
C'est vrai. C'est très récent, là. J'ai vu ça passer ça il y a un mois et demi à peu près. Toi, tu n'as pas fait de punition comme ça, un petit peu. Déjà, punition, je dis non.
Mais non, mais c'est impossible de faire ça. Tu te rends compte? Tu te rends compte l'image que tu vas renvoyer au gamin et la trace que tu vas laisser sur lui? C'est-à-dire que moi, je suis, tu vois, enfin, tu m'as attaché à la... Non, non, impossible.
Un enfant de 6 ans qui a pris en otage sa maîtresse avec une paire de ciseaux.
C'est possible, ça?
Bon, là, c'est faux.
C'est faux.
C'est l'imagination, bah, mais...
Alors, moi, c'est arrivé. Ah. Alors, attends, ok, on va... Un otage, non.
Mais, enfin, un otage, en tout cas, qui est menacé.
Mais on avait accueilli pendant un petit temps sur une des écoles de là où je bossais, des gens du voyage qui étaient en chemin, et voilà, ils étaient
en déplacement,
là,
quoi. Ouais.
En déplacement, voilà, c'est exactement. Et du coup, on avait accueilli les enfants. Et en fait, un jour, les animateurs, ils l'ont retrouvé, un des gamins, dans la cour, avec un ciseau, et ils menaçaient les autres gamins, genre...
Oh, wow.
Genre, ouais, filme-moi ça ou je te crève, et tout,
rude,
et tout, comme ça.
Rude, ouais, ok.
Trop marrant. Enfin, bon.
Un enfant de 3 ans, oublié par le centre de loisirs dans un parc.
Ça, c'est arrivé.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Ouais. Tu sais qu'il y a eu même pire, il y a un gamin qui a été oublié dans un car. Ils l'ont retrouvé au dépôt.
Ouais. L'enfer, putain.
T'imagines?
Ah ouais.
Les parents, ils viennent le soir, ils viennent récupérer leur gamin. C'est-à-dire que les animateurs, ils n'ont pas compté le nombre d'enfants qu'ils avaient en rentrant au centre. Le parent, il vient, on ne sait pas où est l'enfant. Et là, on commence à appeler et tout, la panique. Et donc, on retrace toute la journée le car. Donc, tu appelles le dépôt de car. Et le mec, il va regarder son car. Il y a une gamine qui est au fond du car à manger.
Ah waouh. Des puéricultrices qui oublient et enferment un enfant de 3 ans dans la crèche.
Ouais, wow, c'est possible, ça.
C'est vrai. C'est vrai aussi.
C'est fort possible, ça.
T'es bon. T'imagines déjà tous les cas possibles de
bah
choses
oui,
qui existent
en même temps. Enfin, tu vois vite ce qui est réalisable ou pas, quoi.
En Russie, 2 enfants de 5 ans qui ont creusé un tunnel pour s'échapper de leur école.
S'ils l'ont fait, c'est très fort.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai, c'est un vrai fait divers.
Incroyable.
Ouais, non, mais je
enfin, j'aurais que, dit voilà. Non, mais j'aurais pas cru. Ouais.
Très imaginatif, pour le coup. Ah, ou alors, fort. Ça devrait vraiment être une très mauvaise école.
Les deux fonctionnent.
Le GIGN qui intervient dans un centre de loisirs après l'appel d'un enfant de 8 ans.
Non,
c'est faux.
Ah, ok, j'allais dire quand même. De plus en plus, les centres de loisirs et les écoles se modernifient par rapport à ça et tout ce qui est alerte attentat et tout.
Ah ouais?
Ouais.
Il y a des consignes qui sont
transmises. Ouais, nous, par exemple, là où j'ai travaillé pendant longtemps, on avait un boîtier qui nous permettait, en fait, dès qu'on appuyait, d'être en contact avec la police locale, puis.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Pour réagir très vite.
Quand même.
Ouais, ouais. Okay.
Un enfant de 7 ans qui revendait les culottes de sa mère à l'école.
Oh, ça serait génial.
Je sais pas si ça serait génial, mais c'est faux.
Non, c'est faux.
Ouais. T'as des gamins qui ramènent des choses un peu improbables en centre de loisirs ou à l'école ou.
Ouais. En fait, ils ramènent des choses improbables, mais sans se rendre compte que c'est improbable, tu vois.
Du style.
Bah, genre un couteau. Tu vois, j'ai un gamin qui me ramène une Opinel une fois. Je dis, regarde, mon Opinel. Donc, pourquoi? Tu vois?
Ok, putain.
Ben en fait, parce qu'on est parti en voyage, mon papy m'a acheté, donc je voulais la montrer aux autres.
L'opinel du papy, quoi.
Lui, il se voit pas avec l'opinel.
Non, non, c'est sûr. C'est
mais je dis, mais il est fou, tu vois.
Ouais,
et s'il n'a pas confiance de ce que c'est. Après, non, ce qu'ils ramènent à la maison, c'est souvent les mêmes trucs. C'est des cartes Pokémon, c'est des jouets, c'est des jeux.
Ils ramènent leur maison. Quoi.
Ouais. Si, des fois, ça m'est arrivé des médicaments. Genre, papa, maman, le matin, ils te mettent un Doliprane dans la poche et bah, tu le prends après manger.
Ah ouais,
en fait, non, c'est pas comme ça. Là. Tu sais, donner les médicaments aux enfants, c'est réglementé, c'est encadré.
C'est aux animateurs. Bah
c'est
oui.
Les animateurs quand c'est autorisé. Enfin, voilà.
Bien sûr,
tu donnes pas les médicaments n'importe comment, comme ça. Enfin,
c'est les parents qui préparent tout ce qui est repas, goûter, et qui donnent ça aux gamins quand ils vont à l'école. Ils préparent tout.
Non, c'est impossible de faire ça. Tu imagines que chaque enfant il aurait son repas à lui, c'est pas possible.
Bah oui,
c'est beaucoup des prestataires.
D'accord.
Qui font de la cantine de gros. Oui, bien sûr, beaucoup.
Ok.
Et pour la cantine et pour le goûter, souvent c'est ça.
D'accord. Ok. Je crois que t'avais une anecdote avec un goûter.
Ouais, alors à l'ancienne, il y a très longtemps, c'est qu'en fait, au début, les prestataires de cantine faisaient plutôt le temps du repas du midi et pas forcément le temps du goûter. Et donc avant, les parents, ils ramenaient le goûter pour leurs enfants.
Okay.
Moi, c'était en maternelle, donc on mettait ça dans des petites caisses par classe. Et donc le matin, tu poses ton sac de goûter, le soir, au moment du goûter, tu récupères ton sac, tu vas au goûter. Donc là, on a arrêté parce qu'il y avait plein de gamins qui avaient des goûters, c'était genre chips, saucisson, coca, tu vois, le goûter du gamin.
Ah ouais, encore quand même.
Ouais, c'était des trucs comme ça. Ou des fins de grec, j'ai eu ça. Je jure que c'est pas une blague. Si, le gamin, il te ramène de l'aluminium fin de grec, de la veille.
Dinguerie, les parents.
Ouais, c'est là que tu te dis, putain, mais comment tes parents, tu te dis...
Bah ouais.
Voilà.
Incroyable.
Et un jour, on récupère, on va pour manger et tout, et il y a une gamine qui prend son sac, et gars, une odeur, genre, ça pue. Et en fait, je prends son sac, je commence à sentir et tout, ça pue, et en fait, j'ouvre le sac, et au fond du sac, t'as la boîte de goûter, et au fond du sac, t'as du tabac, genre du tabac, genre style tabac à rouler, machin et tout, tu vois, au fond du truc, avec un petit pochon.
De la weed. Donc de la drogue.
Voilà. Donc je me dis, ça se trouve, j'imagine, du coup j'essaie de me faire une image de la matinée.
Comment ça s'est passé?
Voilà, tu vois, de la matinée de la maman ou du papa, qui prend le sac de la gamine, qui met le goûter, qui se dit, ah, ça weed.
Ou alors c'était un sac d'aura qui servait
tu
pour
vois,
le deal.
Ou j'en sais rien, tu vois, mais je me dis, mais quoi, on voit ça, donc tu te dis, oh, c'est chaud, tu vois.
Ah oh, ouais, c'est chaud quand même là.
Donc toi, tu vas voir les parents, tu leur dis, ah, faites attention. Tu
vois. Quand même technique là.
Ouais, c'est un peu chaud là.
T'as après basculé d'animateur à directeur de centre de loisirs et t'étais formateur pour les BAFA, donc pour les
toujours.
Brevets, voilà, t'es toujours formateur BAFA. Qui sont les gens qui viennent se former? Est-ce que c'est des adolescents, enfin, sortis de l'adolescence qui veulent devenir animateurs pour faire des taffletés, tu vois, par exemple? Est-ce que c'est des gens en conversion? C'est quoi le type de population?
Ça a beaucoup évolué. Et moi, c'est pas très longtemps que je fais ça. Parce que j'ai commencé à faire de la formation à peu près en 2018. Et donc, tu vois, ça fait assez court, ça fait 6 ans. Et même en 6 ans, ça a beaucoup évolué. En fait, le Covid a fait que les choses ont beaucoup changé.
Ça a tout changé, ouais.
Quand j'ai commencé à faire de la formation, c'était beaucoup des groupes très homogènes où tu pouvais à la fois avoir des petits jeunes de 17 ans qui venaient pour faire un petit job d'été, des gens qui faisaient déjà de l'animation, mais qui, du coup, à qui on a demandé de se former et qui devaient aller passer leur
D'accord,
BAFA.
OK.
Ou beaucoup des gens en reconversion. Souvent, c'était des mamans qui ont été sous très longtemps mères au foyer. Qu'est-ce que je peux faire? Bah du coup, je vais faire un peu d'animation, machin. Et depuis le Covid, ça a beaucoup changé. Et maintenant, c'est beaucoup des très jeunes.
D'accord.
Surtout qu'en plus, l'État a fait le choix de baisser l'âge auquel on pouvait passer son BAFA. Avant, c'était 17 ans et un jour. Maintenant, c'est 16 ans.
Ah, c'est hyper jeune.
Donc, c'est très jeune. Et donc, du coup, on a beaucoup des groupes où on a 25 stagiaires et on a 18 de 16 ans et le reste de 17 ans, quoi.
Ouais, 16 ans, t'es en seconde, quoi, à peu près, c'est ça?
Parfois, je me dis, on confie des enfants à des enfants.
Ah oui, bah oui, c'est ça. Et ils doivent fonctionner parfois comme des enfants d'ailleurs quand t'es en centre. Parce que si t'as par exemple 20-30 personnes, je sais pas combien ce sont les groupes, mais.
Les groupes ont un peu. Au début, moi quand j'ai commencé, c'était plutôt 30-35.
Ok.
Mais on était 3 formateurs. Maintenant, on a un peu réduit, on est plutôt 2 formateurs et on est une vingtaine de stagiaires.
Oui, donc ça fait une classe de.
10 chacun. Ah. L'idée, c'est de se dire 10 chacun, 10 par personne.
Il se passe des choses entre les animateurs. Est-ce que tu peux être surpris? Est-ce que tu leur fais faire des activités comme à des enfants? Est-ce que. Ils gèrent mal, est-ce qu'ils s'engueulent, tu vois, c'est quoi l'ambiance entre les animateurs?
L'idée du stage, c'est de faire vivre au plus près possible aux stagiaires ce qui va se passer quand ils vont être sur le terrain.
Ouais.
En France, on a interdiction de louer des enfants. On n'a pas le droit de louer d'enfants.
Bah bizarrement, ouais. J'ai entendu parler de ça.
Donc en fait, pendant le stage, ils ne voient pas d'enfants. Donc tout ce qu'ils vont essayer en termes de jeu et tester, eh ben, ils le testent sur les collègues.
Et ils doivent jouer les enfants,
du coup? C'est-à-dire que moi, quand ils jouent, je leur dis, bah, vous allez vous déguiser, vous allez me raconter une histoire et on va jouer. Et ils nous font le jeu à nous, les collègues stagiaires et à nous, les formateurs, et on joue.
Ok.
Et donc voilà, moi ça m'est déjà arrivé de me déguiser. J'arrive avec un déguisement éclaté avec 3 bouts de papier et je suis un pirate. Et c'est parti, on fait le jeu des pirates.
Mais ils doivent faire semblant que t'es un pirate et
qu'ils sont. Par contre, je leur dis, vous nous parlez comme si on était des enfants de 8 ans. C'est-à-dire quand vous allez nous expliquer les règles du jeu, il faut que ça soit compréhensible pour un enfant de 8 ans, quoi.
Ah, waouh. Ok.
Et donc c'est ça l'idée. Et on va leur apprendre les bases techniques. De c'est quoi être un animateur, comment je fabrique une activité manuelle, comment je travaille en équipe, c'est quoi les bases, c'est quoi un enfant de maternelle? Les bases de c'est quoi un enfant de maternelle, c'est quoi les caractéristiques maternelles, élémentaires, enfin tout ça. On fait un peu de débat, d'échanges, des choses comme ça.
Quand Louis a fait le premier appel avec toi, il m'a noté un truc autour de Maman Ours.
Oh ouais, hardcore.
C'est quoi cette histoire?
Je suis sur un stage.
On dirait un nom de code, j'ai sur mes fiches.
Ouais, c'est ça, et c'est exactement ça. On est sur un stage. Là, c'est un stage à l'ancienne, donc on est 3 formateurs, une trentaine de stages. C'est un stage catastrophe. C'est peut-être le pire stage que j'ai fait de ma vie.
D'accord, ok.
Pareil que pour la colo de ski, des merdes tous les jours. Tu vois?
Ok.
C'est le stage où tu rentres le soir et j'ai dit à ma femme, je retourne pas demain. J'arrête.
Ah ouais, ouais de ouais, trop quoi.
T'as la marre.
Ok.
Il m'avait épuisé, et pas physiquement, intellectuellement.
Ok. Ah ouais, fort.
Et donc on arrive sur le stage et groupe vraiment pas terrible, très jeune. 17-18 ans, bébé cadom, ça m'avait gonflé. On arrive au moment où on fait les grands jeux, et c'est un moment assez important du stage, parce que le grand jeu, tu vas réutiliser tout ce que tu as appris depuis le début du stage. Que ça soit technique.
C'est un peu le test final,
voilà,
quoi.
C'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que si tu le rates, tu n'as pas ton enfant,
c'est pas ça l'idée.
Mais c'est de se dire que c'est le moment où tu vas réutiliser toutes les compétences qu'on t'a apprises, autant les compétences théoriques que techniques. Et donc là, ils font un jeu qui s'appelle Le Monde Merveilleux. Et donc, le principe du Monde Merveilleux, c'est que, là, tu vois, on est dans une salle.
Ouais.
On décore toute la salle.
On peut jouer au Monde Merveilleux, si tu veux.
Il va manquer un peu de matos, mais pourquoi pas. Et donc, par exemple, je te dis qu'on est dans la forêt. Bah, je décore la salle, c'est une forêt. Tu rentres dans la salle, c'est une forêt.
Okay.
T'as un personnage principal qui va être le meneur et qui va nous raconter une histoire. Et pendant cette histoire, il va rencontrer d'autres personnages. Et les personnages vont nous demander à nous, public, Donc, les enfants, mais faire des choses.
Oui, oui.
C'est un truc...
Et participer, quoi.
Voilà, c'est maternel.
Alors, on applaudit, on appelle machin.
Exactement.
Et on appelle. Voilà,
okay. T'as capté.
D'accord. Okay.
Et donc là, on est parti. Okay. Le meneur, il arrive. Et en plus, c'est un groupe à qui j'avais mis un coup de pression. Je leur avais dit, je vous le dis tout de suite, c'est votre dernière chance. Donc là, vous n'avez pas intérêt à merder ça.
Ok.
Ouais, ouais, t'inquiète.
On arrive. Et donc là, on a une tortue qui arrive, c'est le personnage principal, et qui commence à me dire, alors les enfants, machin, machin. Et donc, pour notre premier personnage, on va appeler Maman Ours. Et donc là, moi, je suis assis comme ça par terre en tailleur. Et juste vraiment, à 20 cm de moi, il y a une stagiaire en pilou-pilou, genre pyjama.
Ours, ouais, les tenues ours, complètes, là, les tuniques.
En boule. On appelle Maman Ours. Et donc là, on est tous comme des cons. Maman Ours, Maman Ours, Maman. Maman Ours, ça se réveille pas.
Oh merde.
Une fois. Donc là, il panique un peu. Je lui dis, bah, enchaîne.
Ouais, vois. C'est peut-être le jeu, tu vois.
Ouais. Les enfants, on va appeler Maman Ours. Maman Ours. Maman Ours, ça se réveille pas. Deux fois.
Bon, ce n'est pas...
Là, je commence à paniquer un peu. Et donc là, je regarde et je lui dis, est-ce que c'est normal que Maman Ours, ça se réveille pas? Il me dit, non, c'est pas normal. Et là, je me penche comme ça, elle est en train de faire une crise d'épilepsie.
Oh, l'enfer.
Tu vois? Et là, panique.
Oh, waouh.
OK? Donc, les petits chats, c'est fini l'histoire de la tortue. On va s'occuper de Maman Ours, quoi. Donc là, donc, on avait de la chance, c'est que l'endroit où on était...
Je rigole, mais il faut pas rigoler. Mais
c'est...
mais,
non.
Mais, c'est... mais sur le moment, quand même, t'es en train de faire
maintenant,
une animation de jeu d'enfant.
Maintenant, tu peux en rigoler.
Ouais,
tu peux en rigoler.
Elle va bien.
Mais l'époque où c'est arrivé, très clairement, ouais. Je me suis chié dessus. Bah, je me suis dit, ah, va mourir.
Une crise d'épilepsie, c'est hyper impressionnant.
Mais oui, mais oui. Et donc, on avait la chance qu'on a eue, vraiment, c'est qu'en fait, on était dans un centre social et qu'à l'étage, les gens qui faisaient la sécurité, c'était, c'est pas des pompiers, mais c'était des gens...
Sécurité civile, des choses comme ça,
ouais,
là,
voilà,
des gens
formés
qui aident.
À ça.
Ouais, ouais, ouais.
Donc là, je dis à un collègue direct, va les chercher, machin, etc. Ils descendent direct, ils la prennent en charge et tout. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'elle a pas voulu nous dire qu'elle était épileptique par peur qu'on lui mette pas son BAFA. Sauf qu'en fait, le délire, c'est qu'elle aurait pu faire ça dans les toilettes et crever, en fait.
Bah ouais.
Tu vois? Donc on l'avait un peu engueulé. Et l'histoire, attention, c'est un effet qui se coule. Ouais. Tu connais l'effet qui se coule, des vieux. Et, ouais. Et du coup, je lui dis, elle est prise en charge par les pompiers, etc. Elle va pour partir et elle me dit, le mec me dit, bah, est-ce qu'on peut prendre ses affaires et tout. Je lui dis, bah, il est où ton manteau? Elle me dit, le manteau, il est là-bas, etc. Je prends le premier manteau que je vois, je lui donne. Et au moment où je prends le manteau et que je vais pour lui donner, et bah, de sa poche tombe un pochetard comme ça de bœuf et un grinder. Alors que la première règle qu'on dit... Quand on passe le BAFA, c'est tout ce qui est illégal, c'est mort.
Ah, oui.
Tout ce qui est illégal, c'est motif de tu rentres dans ta maison. Ouais, tu vois,
ouais.
Et on leur dit même, boire, c'est pas illégal. Par contre, sur le stage, il n'y aura pas d'alcool.
Ouais.
Tu vois, ça me paraît logique.
Oui, oui,
et surtout,
oui, oui.
L'image que tu vas donner, c'est que tu vas t'occuper d'enfants. Tu vois, on se dit avec les collègues, ça se trouve, c'est pas une crise d'épilepsie. En fait, ça se trouve, à la BEDAV, elle a fait un putain de bad. Tu vois,
ah, ouais.
Et donc, on parle de ça avec les pompiers, etc. Machin. Et du coup, on monte aussi, parce qu'au-dessus, il y avait le service animation de la ville. On explique le truc au gars. Il nous dit, bah, de toute façon, on va contacter sa maman, on va lui demander un test toxicologique, machin, etc., pour être sûr que ça passe à bien.
Mm-hmm.
Bon. Le lendemain, elle revient, elle nous file le truc, et le test est vierge. Rien. Elle n'avait pas BEDAV. Je me dis, wow. Donc elle a vraiment fait une crise d'épilepsie,
ouais,
en fait.
Ouais.
Ok. Je me dis, mais du coup. Et elle me dit, au fait.
Qui a BEDAV?
Elle me dit, au fait, je te rends le manteau parce que c'est pas le mien.
Oh, waouh.
Et là, je me dis, oh.
Nouvelle règle.
Ok. Et je lui dis, bah, il est à qui? Et donc, je sais plus le nom du gars, genre Quentin. Genre, il est à Quentin, tu vois. Ok. Du coup, on met ça dans le bureau et tout. Donc là, la bœuf et tout, on l'avait gardé avec nous. Mm. On l'avait montré au responsable du service en haut. Voilà, elle avait dit, bah, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Enfin, voilà, tu vois.
Oui. En fait, on retrouve à qui c'est.
On va appeler la police, machin, ils vont venir.
Parce que si tu retrouves la personne à qui c'est et qu'elle avait la drogue sur elle, là, du coup, c'est motif de ciao bye, ciao bye.
C'est pour ça qu'on voulait savoir qui c'était. C'est au revoir, ciao bye. Parce que la règle, ça serait de dire, bah, si vous l'avez pas vraiment vu fumer, machin. Non, mais gars, un mec qui sera avec un pochetard comme ça et un grinder, tu te doutes bien que c'est pas pour faire genre. Tu vois, là,
ouais.
Ça veut dire que potentiellement, il va le faire sur le terrain. Moi, c'est mort.
Complètement.
C'est bon. Donc, on appelle Quentin. Je crois que c'est. Je sais plus, mais voilà. Genre, style Quentin. Viens voir. Donc, il rentre dans le bureau. Tiens, au fait, ton manteau. Là, il récupère son manteau, il l'enfile. Et là, il a un réflexe qui est débile, c'est qu'il fait comme ça. Tu vois ou pas?
Ouais.
Genre, en mode.
C'est bien là.
Tu vois? Donc là, on le regarde avec les deux collègues. Il te manque pas un truc de tête de con, hein, là. Il commence à paniquer. Et donc on lui montre, on lui dit, bah, tu vois. Ah non, en fait, c'est pas. Ils ont toujours des bonnes excuses dans ces moments-là. Non, c'est pas moi. En fait, je t'explique. En fait, ça, c'est le manteau de mon frère qui m'a prêté il y a genre un mois et demi. Et en fait, il a oublié ça dedans. Et comme je voulais pas, enfin, tu vois, une histoire comme ça. Et donc on le regarde, genre, hey, gars.
Téléphoner un peu quand même. Ouais.
Ne prends pas pour un con, tu vois. Ouais. Donc lui, très clairement, on lui dit, bah, merci beaucoup, ciao, bye bye, quoi.
Ouais.
Et en vrai, on avait flippé parce que la gamine, elle aurait pu mourir.
Oui, 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 putain. Ah ouais.
Et en fait, elle avait pas dit.
Réaction en chaîne quand même.
Ouais, et donc, tu vois, et on se dit, oh putain.
Ah ouais, chaud quand même, chaud.
Stage catastrophe.
Bah oui, oui, oui. C'est compliqué aujourd'hui, tu es directeur de centre de loisirs, de recruter les gens qui viennent te voir.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils te disent en premier? C'est quoi la motivation de quelqu'un qui vient te dire, je travaille dans un centre de loisirs? C'est...
Déjà, de base, le métier. pour reprendre du début, c'est que le métier de l'animation en général, la façon dont moi je le vis, c'est pas un métier qui est forcément beaucoup mis en avant. Ouais. C'est beaucoup un métier que tu fais parce que t'es étudiant pour faire un peu d'argent.
Ça, cette réputation-là, mais voilà. Ça change quand même, je pense. Ça. Non.
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu vois, moi, c'est un truc souvent quand on m'a demandé ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis animateur, on me dit OK, mais c'est quoi ton vrai métier?
Ah ouais.
Tu vois, ça m'est déjà arrivé ça. Ouais. Mais OK, t'es animateur, mais c'est quoi ton vrai métier?
Quoi, sur les vacances, quoi. Ouais. Tu fais quoi dans
c'est
la
ça.
Vie sinon,
tu vois? C'est un peu en train de changer, en tout cas, j'espère. L'État a mis en place un bac pro. Lié à l'animation, qui s'appelle Bac Pro AEPA, qu'il va falloir pérenniser ce truc-là dans le temps et le rendre effectif. Mais, voilà. Et donc, du coup, des fois, tu recrutes des gens, oui, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, parce que déjà, le public a changé. Et donc, forcément, moi, les gens postulent et que j'ai besoin d'un animateur et que sur les 10 candidats qui postulent, j'en ai 9 qui ont 16 ans, tu vois. Et
déjà, ouais, c'est en termes de maturité, en termes de plein de choses. Ouais.
Et un des trucs qu'ils font souvent quand ils arrivent pour un entretien, une fois, ça m'est arrivé, donc un gars, il vient, il se présente à l'entretien, grand costaud, baraque et tout, beubard, machin. Et je lui dis, pourquoi vous postulez pour être animateur? Et le premier truc qu'il me dit, c'est, il m'a dit, j'adore les enfants. Et là, tu te dis, non, gars, tu dis pas ça.
Ah, cette phrase, tellement.
Et en plus, c'est un truc que nous, on dit en stage BAFA, parce qu'on les prépare aussi à faire des CV, à faire des entretiens d'embauche. Et on leur dit surtout, la phrase à pas dire, c'est, quand t'arrives à un entretien, c'est, moi, j'adore les enfants. Il nous a dit, le truc qu'il me dit, c'est un truc du style, j'adore les enfants, j'aime être au contact des enfants. Non, tu dis pas ça.
Non, ouais, tu dis pas ça, non, tu dis pas ça du
pas
tout.
Ça en entretien.
Non, tu dis pas ça en garde à vue non plus après. Tu
non,
vois,
voilà, tu vois. Alors, ça veut pas dire que le mec est forcément un pédophile. Mais tu vois, ça fait bizarre à entendre. Quand t'es un recruteur, t'entends ça, tu te dis, OK, allez, on va passer à la suite.
Évidemment que si tu veux postuler en tant qu'animateur, c'est que t'aimes le contact des enfants.
Mais bien sûr.
Mais c'est un truc qui doit être induit, tu vois.
Mais tu vas plutôt dire un truc du style, j'aime être en présence des enfants, de pouvoir leur transmettre de la connaissance, j'aime pouvoir les amuser, leur faire faire des jeux, enfin des choses comme ça. Tu dis pas, j'adore les enfants, quoi. À deux doigts de me dire, mon moment préféré, c'est la sieste, tu vois. C'est chaud de ouf.
Les gens de podcast.
Il y a un sujet qui dont on entend parler de plus en plus ces temps-ci, c'est celui du harcèlement scolaire, des gamins qui se font harceler, et toi, tu es en contact en permanence avec les gamins. Est-ce que tu as déjà vu, même s'ils sont petits, des choses autour du harcèlement?
Ça, de la même manière que le côté HP dont on parlait tout à l'heure, c'est en train de rentrer dans les mœurs, en tout cas de lutter contre le harcèlement. Mais des fois, ça va peut-être même un petit peu trop loin. C'est-à-dire que maintenant, il y a aussi des parents qui, pour une chamaillerie d'enfants, c'est bon, c'est du harcèlement.
D'accord. Pas vrai. Okay. Ah oui, faut doser, quoi.
Voilà, le harcèlement, c'est quand même quelque chose qui est grave et qui a des critères pour être harcelé, quoi. C'est quelque chose de répétitif, sur la longueur, de toujours la même chose, toujours les mêmes enfants contre le même enfant en particulier. Enfin, voilà, on ne peut pas dire deux enfants qui chamaillent que c'est du harcèlement. Oui. Moi, c'est arrivé à un des enfants, en plus, dont j'avais la charge dans ma classe.
D'accord, OK.
Je m'occupe d'une classe d'enfants de CE2. Et en fait, un jour, le papa de l'enfant vient me voir en me disant qu'il veut nous rencontrer avec le directeur pour parler parce que, en gros, son fils subit du harcèlement. OK, on en discute. Donc, on a un rendez-vous avec papa et maman. Et en gros, très clairement, maman nous dit que son fils, il rentre le soir à la maison en disant qu'il ne veut plus retourner à l'école, qu'il se fait harceler par d'autres enfants, famille de l'Est. Donc il avait un petit accent, qui se moque de son accent, qui lui disent qu'il parle pas français, qu'il est pas comme les autres, machin, et trucs comme ça. Et le gamin dit à sa maman, en gros, je vais me suicider, je vais plus retourner à l'école et tout.
Ouais, en CE2 quoi, donc ça a 8 ans.
Ouais, 8 ans. Oh, là t'as mal. Hein. Là j'ai mal au cœur parce que je me suis dit, c'est un gamin de ma classe dont je m'occupe et j'ai rien vu.
Tu vois? T'as rien vu, mais ça se passe quand alors du coup?
En fait, ça se passe à tous les moments où il y a pas d'adulte. Forcément, le gamin, il est pas con, il va faire ça devant toi. Ça va se passer dans le couloir en 20 secondes. Il passe à passer à côté, tu vois, il va lui dire un petit machin.
Ah oui, des imitations, des trucs.
Il va être dans la cour, quand il y a le petit recoin de la cour, tu vois. Ça va se passer à tous ces moments-là, il n'y a pas forcément d'adultes. Et donc, du coup, tu vois pas forcément tout. Et puis, il faut se dire, moi, je m'occupe d'une classe entière, ils sont 28 élèves, j'ai que deux yeux, forcément, tu peux pas avoir
tout le monde.
Tu vois. Même si je fais le plus attention possible, c'est difficile, quoi. Et en gros, le papa, il nous dit à moi et mon directeur, il nous dit clairement, soit vous réglez l'histoire, soit c'est moi qui la règle, et tu comprends dans la phrase qu'il ne va pas régler l'histoire de la même façon que nous, quoi.
Ouais, il va aller voir directement les parents des... Et t'as déjà vu du harcèlement scolaire que t'as dû régler ou...
Lui, c'était clairement ça.
Ouais, mais
donc du coup, ça s'est réglé avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on a agi, on a rencontré les parents des autres enfants qui étaient harceleurs, entre guillemets, on a discuté de ça, on a parlé aux enfants. Très souvent, il faut bien se dire que les enfants eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont harceleurs ou qu'ils sont harcelés.
C'est ça.
Ils ne se rendent pas compte forcément que leurs gestes ou leurs actes ou leurs mots ont cette portée sur les autres qui sont en face d'eux. Ils ne s'en rendent pas compte du tout.
Ouais, donc t'étais
quand
là
t'as
pour
6
les...
ans, tu ne te rends pas compte que tu fais subir quelque chose de négatif.
Je pense que tu
n'as
pas compte de ça pendant un petit moment.
Ouais.
Et puis même, je pense que beaucoup de gens...
C'est la blague.
Adultes.
Oui.
Moi, il y a des fois où je réfléchis, je me dis... Peut-être qu'un jour, j'ai contribué au harcèlement de quelqu'un, tu vois.
Forcément, on a été harceleur de quelqu'un un jour.
Alors, j'ai dû être harcelé aussi, tu vois. Pour plein de raisons. Et tu l'es même en tant qu'adulte, parfois, sans t'en rendre compte.
C'est ça.
Et c'est très... bizarre parce que ceux qui subissent le harcèlement s'en rendent compte puisqu'ils le vivent très mal, mais beaucoup de harceleurs ne s'en rendent même pas compte. Parfois, tu peux identifier un gamin qui, tous les jours, vient emmerder un autre, mais je pense qu'il y a des fois, ça ne se voit pas. Non. Tu peux rire à une blague, tu peux crier un truc, et ça te paraît rien du tout, mais en fait, c'est ça qui va créer le harcèlement sur le long terme.
C'est important, et c'est une très bonne initiative que l'État a mis en place de pouvoir en discuter dans les classes, dans les écoles. Moi, je sais que la ville où je travaillais, y a un partenariat qui a été mis en place avec la police municipale de la ville où je travaillais. Donc, les policiers passaient dans les classes pour parler de ça, du harcèlement, de comment on s'en sort, de comment on en discute, de comment on réagit quand on voit un collègue, un enfant collègue à nous qui se fait harceler, et tout, etc. Donc, c'est hyper important de pouvoir en parler.
Et puis, si des policiers qui viennent en parler,
ça a tout de suite un autre impact.
Il y aura des mecs en uniforme ou des filles en uniforme qui viennent nous en parler, quoi. C'est fou. T'as l'air vraiment passionné par ton métier. C'est quand même assez fou, quoi. Pour toi, c'est quoi le caractère, les qualités primordiales qu'il faut pour être animateur aujourd'hui?
Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que moi j'aime les gens. Tous les gens. Qu'importe. Moi, je suis plutôt. Il y a une phrase qu'on dit, la confiance, ça se gagne. Moi, je suis plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi, la confiance, je te la donne à 100% d'abord, et puis après, on verra si tu la donnes ou pas. Je pense que pour être un bon animateur, j'ai pas la prétention d'être un bon animateur. C'est pas moi qui peux juger moi-même si j'en suis un ou pas. Il faudra demander à mes collègues.
Mais t'aimes ce que tu fais, ça se ressent.
Mais voilà, j'aime énormément ce que je fais. C'est parce que réellement, j'ai l'impression d'être utile. Je me dis que c'est ma place, que les étoiles se sont alignées, que mon endroit où je devais être, c'est là, et que je suis utile, et qu'à un moment donné ou un autre, peut-être que je vais changer la vie d'un enfant, de la même manière qu'on a aussi, à un moment donné, des animateurs ont changé la mienne. Tu vois, la plus grande fierté que j'ai, et le truc qui me fait le plus plaisir souvent, c'est quand, tu vois, 2-3 mois après, je fais un stage avec des stagiaires, et quelques temps après, on me renvoie un message en me disant ouais, « quand on avait parlé de ça, merci beaucoup pour ce que tu m'as transmis, j'ai pu mettre ça en place avec les enfants, c'était génial. » Quand je recroise des enfants dans la rue et qu'ils me disent « te rappelles quand on avait fait ça, t'avais fait telle activité, t'avais fait ça, c'était ouf et tout. » Là, je me dis, tu vois, j'ai eu un impact sur la vie des gens, tu vois. Genre, je suis rentré dans leur vie et j'ai eu un impact sur eux. Ça, c'est hyper valorisant. Pour moi, en tout cas, c'est la plus belle récompense, entre guillemets, si on peut dire. C'est très intéressant. Tu ne deviens pas riche en faisant l'animation. C'est très mal payé, tout le monde le sait. Enfin, de toute façon, fonctionnaire, en général, ce n'est pas forcément très bien payé. Donc, si tu veux être riche, tu ne fais pas ça. Ouais. Tu fais ça parce que c'est une vraie passion et parce que tu as envie de le faire. Moi, je n'ai pas commencé comme étant une passion. Mon objectif de base, c'était me payer des bouteilles en boîte de nuit, tu vois. Je suis très au clair avec ça. Et c'est en faisant que ça en est devenu une passion. Parce que voilà, être au contact des gens, me sentir utile, rentrer dans la vie des gens, dans le bon sens du terme, mais participer activement à l'éducation des enfants et me dire que je vais laisser une trace chez eux positive.
Ouais.
Si je fais de la formation, c'est aussi pour me dire que ça se trouve, il y a quelque part en France, un enfant, un adulte qui a changé la vie d'un enfant, parce que moi-même j'ai changé la vie de cet adulte en lui parlant d'animation. Malgré tout, j'ai agi sur la vie d'un enfant que je ne connais même pas.
Ouais, c'est ça, c'est fou. Toi, tu n'as pas d'enfant actuellement ?
Non.
Si t'en as,
ouais.
Je sais pas si c'est un projet ou pas, peu importe.
C'est,
mais
c'est un des objectifs de ma vie.
Un des objectifs.
Ah ouais, forcément.
Est-ce que tu te verrais à nouveau les mettre en centre de loisirs, en centre de vacances, en centre aéré, j'en sais rien. Est-ce que c'est un truc que tu te vois faire? Et donc, est-ce que tu vas être le parent chiant? Est-ce que tu vas être le parent, tu vois? C'est bon.
Ça serait horrible.
Je vous laisse gérer.
Ça serait horrible pour eux, parce que du coup, je verrais tout ce qui se passe. Et je connais tout. Tu sais, il y a souvent des gens qui disent, quand tu sais comment ça se passe, tu mets pas tes... Tu vois, par exemple, les gens qui bossent au McDo, ils disent, moi qui bosse au McDo, je mange pas au McDo.
Okay.
Tu vois,
ouais.
Et là, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, moi qui travaille dans les centres de loisirs, j'aurais peut-être un peu de mal à y mettre mon enfant, sachant ce qui s'y passe. Tu vois, parce que c'est pas moi qui m'en occupe et que du coup, je serais pas sûr à 100% que ça se passe bien ou pas. Maintenant, non, il y aura au centre de loisirs, parce que je pense que c'est un endroit où il y a plein de choses qui se passent. C'est un vrai endroit de vie qui est beau, qui est sympathique.
Ouais. Je suis très heureux de t'avoir rencontré.
Merci,
je suis
très heureux
que tu nous aies écrit un mail.
Avec plaisir.
Parce que en fait, sans ça, on se serait pas rencontrés. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a pas mal d'animateurs ou d'animatrices qui doivent nous regarder. C'est un métier qui est vraiment en développement. Il y a toujours un manque, tu me disais, il y a toujours un manque.
Toujours.
Donc, quand tu parles comme ça avec passion, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier-là. Bon, commencer par le BAFA, déjà, je pense que c'est quand même la première étape. Et puis, après, on faut voir pour la direction de centre de loisirs, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
De continuer comme ça, d'être heureux. Moi, je suis très heureux dans ma vie, je suis très heureux au quotidien. Ça me va très bien. L'année prochaine, je vais entamer des moments où j'ai passé des concours de la fonction publique pour monter un peu en grade, gagner un peu plus de sous, des choses comme ça.
Ok.
Réussissez-moi de réussir ce concours, ça m'irait très bien.
Merci
beaucoup, c'est gentil.
En tout cas, merci à tous de nous suivre sur Légende. J'espère que vous avez donc aimé l'interview de Dylan. Il nous a écrit sur la page contact@legendegroupe.fr. Donc, si vous voulez raconter votre histoire, si vous avez un métier, quel qu'il soit, une vie particulière, une anecdote même, parce qu'on fait d'autres formats sur Légende, on va en faire de plus en plus. Si vous avez une histoire à raconter, on veut bien la lire. Après, on verra si on peut la partager comme ça, si on peut faire une émission comme on a fait avec Dylan. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est partout avec Légende Média ou @Légende Média ou @Légende tout court. On se dit à très bientôt sur Légende. Merci encore, Dylan.
Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir
accueilli. À très bientôt sur Légende.
Légende Podcast. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.